le micro, mais juste pour quelques instants. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. D'abord, bonjour Monsieur le Bâtonnier. On attendait aussi Madame la Bâtonnière Talman de Créteil. Peut-être viendra-t-elle. Bonjour, chers confrères. Je suis maître et mes chers consoeurs. Je suis maître Pierre Bordessou de Bellefeuille. Je suis le président par intérim de la section versaillaise des avocats de France.
Du SAF,
syndicat des avocats de France. D'abord, je vais parler de Popote, 30 secondes. Les attestations de formation, je crois, devraient pouvoir être disponibles très rapidement, puisque j'ai reçu les matrices, ça devrait donc pouvoir être fait à l'horizon d'une semaine. N'oubliez pas de signer à l'entrée. Plus, pour rentrer un peu plus dans le sujet, je suis particulièrement heureux ce soir de vous accueillir. Je ne suis pas moi-même un très grand criminaliste, c'est le moins qu'on puisse dire, mais j'ai gardé le souvenir de la précédente formation criminelle et celle qui était encore avant. La dernière formation criminelle remonte à 2017, oui, c'est ça, et celle d'avant, on se cramponne, 1999. C'est-à-dire que pendant 18 ans, il n'y a pas eu de formation criminelle assurée par le barreau pour le 10e barreau de France, qui compte quand même deux cours d'appel et surtout deux cours d'assises de première instance et d'appel. C'est dire si le sujet est important, même s'il est extrêmement pointu. Sans vouloir déflorer ce qui sera dit, je pense que la majorité de la salle sait que nous serons les cochons d'Inde, les guinea pigs expérimentaux de ce tribunal criminel qui apparaîtra dans quelques mois. Je vous félicite donc, mes chers confrères, d'être présents ce soir pour ce sujet doublement épineux, qui sera décliné en quelque sorte en deux catégories, en grossissant un peu le trait. Je pense que tout d'abord Didier Ligier, que vous connaissez, ancien membre du Conseil de l'Ordre, qui a été président de la Commission pénale, qui avait d'ailleurs fait la formation de 1999 avec notre confrère Liénard, et celle d'ailleurs de 2017 également, présentera plutôt la partie théorique, et je pense que notre excellent confrère Leclerc fera plutôt la partie explicative ou du moins transcendantale. Je vous fais confiance à cet égard. Pour ceux qui ne connaissent pas Maître Henri Leclerc, je crois qu'il a sa page Wikipédia. C'est 3 300 000 occurrences sur Google, ce qui est quand même pas mal. Moi, j'en fais péniblement, je crois 30 000. Enfin bref, donc c'est un rapport de récent. Et vous avez été membre du Conseil de l'Ordre, vous êtes avocat au barreau de Paris, ancien président de la ligne des droits de l'homme, et donc vous serez notre deuxième intervenant ce soir. Voilà. Merci à l'Ordre qui nous accueille. Merci également aux secrétaires de la conférence qui nous ont prêté leur caméra qui pourrait servir pour les débats. Et merci à M. Valentin Gélin, qui est un jeune diplômé de l'ESIS de Paris, qui est notre vidéaste ce soir, dans l'espoir que ça sera mis en ligne, la conférence de ce soir, avec sans doute un montage informatique derrière. Messieurs les intervenants, la parole est vôtre.
Oui, bonjour à tous. Lorsque la loi du 23 mars 2019 a été promulguée, après, j'y reviendrai, décision du Conseil constitutionnel, ça a son importance au regard du sujet donc, que nous traitons ce soir, s'est immédiatement posé la question de savoir si cette création de ce qui ne s'appelle pas, Pierre, tribunal criminel, mais la cour criminelle, c'était le tribunal criminel à l'origine, lorsque ça a été introduit dans le projet de loi, mais finalement ça s'appelle la cour criminelle. Est-ce que la cour criminelle, c'est la question qui vient immédiatement à l'esprit, constitue la fin du juré d'assises, en tout cas préfigure la fin du juré d'assises, et la fin d'un principe essentiel de la justice criminelle en France depuis deux siècles, c'est-à-dire celle de l'oralité des débats. Ces deux questions venant immédiatement à l'esprit, la section du SAF de Versailles a pensé qu'à partir du moment où le département des Yvelines faisait partie des 7 départements pilotes qui, à partir du 1er septembre prochain, expérimenteront la cour criminelle, il était nécessaire d'organiser en urgence cette formation. Mais il y a Henri qui est dérangé par son téléphone. Il était nécessaire d'organiser cette formation en urgence pour faire le point sur les enjeux de cette réforme, et puis ensuite voir ensemble, alors j'y reviendrai après que Henri nous aura dit tout le mal qu'il pense de cette réforme, je reviendrai sur les possibilités d'action que nous avons, qui sont envisageables au niveau de notre ordre, au niveau du SAF, au niveau du CNB, au niveau de la profession, pour essayer se défendre, de combattre la mise en œuvre de cette réforme Si toutefois nous arrivons ce soir à la conclusion, qui est a priori la position des deux intervenants, mais qui ne sera pas forcément celle de tout le monde, que cette réforme est extrêmement dangereuse et extrêmement néfaste. Alors, comment les choses se présentent-elles? Le Conseil constitutionnel va valider, vous savez qu'il a, il a rendu une décision qui fait plus de 100 pages, c'est la plus longue décision que le Conseil avait jamais rendue dans son histoire, sur la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est un article de cette loi, qui est l'article 63, celui qui précisément crée la Cour criminelle. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de remplacer la Cour d'assises par une cour qui est composée, vous le savez, en première instance, de 3 juges professionnels et de 6 jurés populaires, en appel de 3 juges professionnels et de 9 jurés populaires, de remplacer cette cour d'assises en première instance par une cour criminelle composée de 5 magistrats professionnels pour juger uniquement les personnes majeures qui ne sont pas en état de récidive légale et pour des crimes qui leur font encourir une peine de 15 ans ou de 20 ans de réclusion criminelle. Il faut tout de suite dire que ceci va concerner au moins la moitié, probablement même un peu plus, des affaires actuellement jugées devant les cours d'assises, puisque ça va concerner en particulier toutes les affaires de viol qui constituent plus de la moitié à elles seules du stock des affaires jugées dans ce pays par les cours d'assises. Donc, personne majeure accusée d'un crime faisant encourir 15 ou 20 ans de réclusion criminelle, qui n'a pas été commis en récidive légale, jugée dorénavant par la cour criminelle, avec des magistrats qui ont accès au dossier, qui connaissent le dossier avant l'audience, les 5, qui conservent le dossier pendant le délibéré, qui l'emportent avec eux pendant le délibéré. L'objectif annoncé des rédacteurs du projet de loi qui vont introduire dans le cours du débat, parce que vous savez que cette loi a été débattue pendant pratiquement une année entre le moment où elle a été annoncée début 2018 et le moment où elle va être promulguée le 23 mars 2019, une année de débat, une année de discussion, et c'est au cours des débats que sera introduit cet article 63 qui ne figurait pas dans le texte initial. Quelle est la motivation avancée par les auteurs de ce texte? Elle est très simple. Elle consiste à dire la durée d'audiencement devant les cours d'assises n'a cessé de s'allonger. Si je reprends ici, je vous invite à le lire, l'excellent article de quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord, mais c'est quand même un excellent article, Monsieur Alain Blanc, qui a écrit dans le dernier AJ pénal, un article, donc l'AJ pénal d'avril 2019, pages 184 à 188, qui fait partie des documents qui vous ont été distribués à tous ceux qui étaient inscrits cet après-midi. C'est l'un des 8 documents que je vous ai fait distribuer. Monsieur Blanc explique dans cet article que ce qui justifie, selon lui, ce qui légitime ce projet, c'est en particulier l'allongement de la durée des jugements aux assises. L'USM, qui est également l'Union syndicale des magistrats, qui est également favorable à l'expérimentation de cette cour criminelle, indiquant que le délai moyen de jugement des crimes est passé de 37,9 mois en 2013 à plus de 40,6 mois en 2015. Et donc cette augmentation de la durée de jugement des crimes en France est considérée par les auteurs de ce texte comme légitimant une réforme qui vise à réduire les délais d'audiencement et à respecter ainsi davantage l'un des principes fondamentaux de la Cour européenne des droits de l'homme qui a à plusieurs reprises condamné un certain nombre de pays, en particulier l'Italie, mais aussi la France, pour précisément non-respect du délai raisonnable de jugement. Ça, c'est l'argument principalement avancé par les auteurs de ce projet de loi. La loi a été votée, elle a été déférée au Conseil constitutionnel et vous avez... C'est un des documents que je vous ai également fait distribuer. Vous avez les paragraphes, il y en a, c'est simple, il y en a 5, les paragraphes 309 à 314 de cette très longue décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2019, la décision numéro 2019-778, donc, dont 5 paragraphes sont précisément consacrés au débat qui a été porté par les parlementaires, ce qui d'ailleurs ferme la porte de la QPC, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure, au débat qui a été porté par les parlementaires devant le Conseil constitutionnel sur le point de savoir si cette expérimentation, car en réalité, cette réforme dont je viens de vous brosser les grandes lignes, ne rentre pas en vigueur immédiatement sur l'ensemble du territoire français, elle est entrée en vigueur le 13 mai, suite à un arrêté que vous avez également dans le dossier du 25 avril, arrêté relatif à l'expérimentation de la Cour criminelle, qui prévoit que, à partir du 13 mai 2019, entre en vigueur la nouvelle procédure de jugement des crimes de majeurs non commis en état de récidive faisant encourir des peines de 15 ou 20 ans, dans 7 départements, les Ardennes, le Calvados, le Cher, la Moselle, la Réunion, la Seine-Maritime et les Yvelines. Donc c'est dans ces 7 départements, les premières audiences sont prévues par l'arrêté comme pouvant intervenir à partir du 1er septembre prochain, et les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, c'est-à-dire à la date du 13 mai 2019, ne faisaient pas encore l'objet d'une ordonnance de mise en accusation ou d'un arrêt de mise en accusation d'une chambre de l'instruction, les personnes dont l'ordonnance de règlement en matière criminelle n'a pas encore été prononcée avant le 13 mai 2019, qui rentrent dans les conditions que j'ai indiquées précédemment et qui vont être jugées dans l'un des 7 départements que je viens d'indiquer, ne seront plus jugées à partir du mois de septembre prochain par la Cour d'assises en première instance, mais par la Cour criminelle. Ça, c'est le corpus de cet arrêté qui prévoit que s'agissant des personnes qui ont déjà été renvoyées avant le 13 mai 2019 devant une Cour d'assises, dans l'un de ces 7 départements, mais qui rempliraient également les conditions pour pouvoir être éventuellement jugées par la Cour criminelle, elles pourront être également jugées par la Cour criminelle, mais à condition qu'ait été préalablement recueilli le raccord en présence d'un avocat, et que, bien évidemment, s'il existe des co-accusés, par exemple s'il y a un co-accusé en état de récidive légale, ça ne sera bien naturellement pas possible. Dans les autres cas, donc si vous avez des dossiers qui ont déjà fait l'objet d'ordonnances de règlement criminel avant le 13 mai dernier et qui remplissent les conditions des peines encourues au niveau des qualifications pénales pour des majeurs n'étant pas en état de récidive légale, il est probable que va vous être proposée l'éventualité d'une acceptation d'être jugé par la Cour criminelle plutôt par la Cour d'assises. On demandera tout à l'heure à Henri Leclerc ce qu'il pense du conseil à donner, à savoir s'il convient ou non d'accepter une telle proposition qui, encore une fois, va être faite à un certain nombre de personnes. Alors, l'article 63 ayant, parmi d'autres, été déféré au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel est venu dire, dans ses paragraphes, les paragraphes que je rappelais tout à l'heure, les paragraphes 310 à 314 de la décision, que l'expérimentation, puisque la critique des parlementaires a évidemment porté sur la rupture d'égalité des citoyens, du fait que pendant 3 années, oui, j'ai oublié de vous dire que l'expérimentation va durer 3 ans, à compter du 13 mai 2019, donc jusqu'au 13 mai 2022, et que 6 mois avant l'expiration de ce délai de 3 ans, le gouvernement devra présenter un rapport au Parlement, rapport qui devra être établi à partir d'une demande d'avis auprès de l'ensemble des acteurs, et la profession d'avocat est directement concernée par le texte comme faisant partie de ceux qui auront à émettre une opinion sur, en 2022, faudra-t-il généraliser cette réforme de la Cour criminelle ou au contraire, faudra-t-il arrêter cette expérimentation et revenir à la Cour d'assises traditionnelle. Donc le Conseil constitutionnel est venu dire qu'il n'y avait pas de rupture d'égalité. Vous verrez dans le document que je vous ai fait distribuer que j'ai mis également le dossier documentaire du Conseil qui cite les décisions préalables qui ont admis dans le principe, je fais très court, le principe de l'expérimentation. Le Conseil constitutionnel a admis depuis longtemps qu'on peut expérimenter une loi dans certains lieux. Bien évidemment, ça porte nécessairement atteinte au principe d'égalité puisque selon que vous serez jugé dans les Yvelines ou dans les Hauts-de-Seine, pour un viol à partir du 13 mai 2019, vous serez jugé soit par 5 juges professionnels qui auront accès au dossier avec la fin de l'oralité, ou vous serez jugé par 6 jurés populaires et 3 juges professionnels. Donc il est bien évident qu'il y a une rupture d'égalité des justiciables devant le mode de justice qui va leur être appliqué. Le Conseil constitutionnel, depuis très longtemps, l'a admis. Ce qu'il a simplement encadré, c'est qu'il faut que l'expérimentation soit suffisamment précise. Et là, dans le cas qui nous intéresse, la loi ayant dit l'expérimentation devra se faire entre 2 et 10 départements. En l'occurrence, on en a choisi finalement 7. La loi a suffisamment encadré l'expérimentation en précisant que ça serait effectivement entre 2 et 10 départements qui pourraient être expérimentaux. Et donc le grief tiré de la rupture d'égalité entre les citoyens a été écarté par le Conseil constitutionnel. De même d'ailleurs que le grief tiré de l'inégalité de traitement, car indépendamment de la question de savoir si tout le monde est jugé de la même manière, se pose la question de savoir si, quand on est jugé par une cour criminelle, on risque d'être moins bien jugé que si on est jugé par une cour d'assises. Là encore, le principe de l'inégalité de traitement a été écarté par le Conseil constitutionnel conformément à sa jurisprudence. Ce qui fait donc qu'à partir du 1er septembre prochain, on va voir dans notre département, on va voir commencer à s'exercer la cour criminelle qui est a priori destinée, je vous l'ai dit tout à l'heure, à juger au moins la moitié des crimes, c'est-à-dire plus d'un millier sur l'ensemble du territoire si jamais un jour cette cour criminelle devait être généralisée. Alors les questions qu'elle pose, et je vais très rapidement donner la parole à Henri Leclerc, les questions qu'elle pose, elles sont évidemment multiples. L'histoire de la cour d'assises, mon voisin la connaît beaucoup mieux que moi, montre que depuis la Révolution, la présence des jurés populaires, le rôle des jurés populaires, le pouvoir des jurés populaires a toujours été discuté. Il y a eu des réformes dans tous les sens. Je ne vais pas en faire l'exégèse, ça serait beaucoup trop long. Je rappelle simplement qu'il a fallu attendre 1941, si je me trompe, une loi vichiste, qui d'ailleurs, entre parenthèses, d'ailleurs écartait des jurés les juifs et ceux qui n'avaient pas des ascendants français. Il a fallu donc attendre 1941 pour que les jurés délibèrent avec les magistrats, puisqu'antérieurement, il y a eu toute une période où les jurés délibéraient tout seuls, un peu à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis. Et il y avait une différence qui était faite entre la culpabilité et la peine. Et c'est en critiquant, alors qu'aujourd'hui, on essaye au contraire de réinstaurer cette césure en matière notamment correctionnelle entre la culpabilité et la peine, c'est au nom de cette césure qu'on a effectivement réformé à partir de 1941 ce qu'est la cour d'assises d'aujourd'hui. Les grandes dates à retenir, c'est évidemment 2000, c'est-à-dire le droit d'appel, puisque jusqu'en 2000, je rappelle que les décisions des cours d'assises n'étaient pas susceptibles d'appel, qu'elles n'étaient pas motivées et qu'elles n'étaient susceptibles que d'un simple pourvoi en cassation, puisqu'on considérait que c'était le pendant de la suprématie du juré populaire, qui n'avait pas besoin d'être rejugé en appel, et qu'il n'était donc pas nécessaire d'instaurer le double degré de juridiction en matière criminelle. La loi du 15 juin 2000 a heureusement mis fin à cette anomalie, que les crimes les plus graves, que les infractions pénales les plus graves, ne puissent pas être jugées par un double degré de juridiction. Donc depuis 2000, cour d'assises d'appel. On a eu dans un premier temps 9 jurés, puis 12 en appel. Aujourd'hui, on a 6 en première instance, puis 9. Là encore, des problèmes budgétaires. On va y revenir parce que c'est en réalité derrière tout ça ce qui explique tout ce qui est en train de se passer. Cour d'assises d'appel avec un plus grand nombre de jurés. Motivation introduite en 2011, si je ne me trompe pas. Obligation de motiver, renforcée encore plus récemment. Et donc aujourd'hui, on était arrivé à un système où finalement, la cour d'assises était quelque part, pour ceux qui ont l'habitude de l'abattage des comparaisons immédiates devant certaines juridictions correctionnelles, une justice quand même dans laquelle on prenait le temps d'écouter les gens, on prenait le temps d'écouter les témoins, on prenait le temps d'examiner les faits, et finalement une justice qui quand même, me semble-t-il, présentait, même si j'ai le souvenir quand j'étais jeune avocat d'avoir été un farouche adversaire à la cour d'assises, et je me souviens que notre regretté confrère décédé il n'y a pas longtemps, Thierry Lévy, a toujours été lui un farouche adversaire de la cour d'assises, des jurés populaires, préférant les juges professionnels. Donc ce débat sur la présence des jurés populaires dans les juridictions criminelles est un débat aussi vieux que la cour d'assises, donc il y a plus de 2 siècles. Ce débat a toujours existé, il continuera, il perdurera. Ce n'est pas cette réforme qui va y mettre un terme. Aujourd'hui, on est face à une réforme qui nous tombe dessus dans notre département, dans 3 mois, et qui va effectivement aboutir à ce que on va, au prétexte de vouloir juger plus rapidement, on risque de juger en tout cas. On jugera en mettant hors les jurés populaires de la juridiction criminelle et surtout, et ça je pense qu'Henri va en reparler beaucoup mieux que moi, en remettant gravement en cause le principe fondamental de la justice criminelle qui est celui de l'oralité des débats. Il n'y a que le président qui connaît le dossier, les assesseurs eux-mêmes ne le connaissent pas, les jurés non plus, et tout ce qui est jugé aux assises, l'intime conviction là, qui se forge au fur et à mesure des débats, elle résulte de ce qui se passe devant la cour d'assises, à l'audience, de l'audition des témoins, des experts, de l'accusé, des plaignants qui deviendront partie civile si l'accusé est reconnu coupable, ne disons pas encore des victimes, puisqu'ils ne le seront ou ne le seront que si l'accusé est reconnu coupable. Donc tout cet ensemble de débats aboutit à une justice dont on nous dit aujourd'hui qu'elle est trop lente, qu'elle ne permet pas de respecter le délai raisonnable de jugement, et dont on nous dit aussi qu'elle est trop coûteuse. Si ce n'est que, et c'est d'ailleurs, et je vais finir par là, Une des critiques tout de même qu'apporte l'USM, car pour donner quelques idées des prises de position des uns et des autres sur le sujet, nous au SAF, on a pris une position très claire, c'est un des documents que je vous ai également remis, on s'est prononcé à la fin de l'année dernière résolument contre. Je peux vous lire les trois phrases de la prise de position signée par Laurence Roch, la présidente du SAF, en septembre 2018, qui disait ceci, si le texte le SAF est contre la création de ce tribunal criminel, puisqu'à l'époque on parlait encore de tribunal criminel, c'est au cours des débats que c'est devenu la cour criminelle. Si le texte évoque un principe atténué d'oralité des débats, au motif que l'oralité des débats perdurera en appel devant la cour d'assises d'appel, celle-ci, dit, écrit la présidente du SAF, est en réalité écartée totalement, puisque le dossier sera remis à l'ensemble des magistrats qui composent le tribunal et qu'ils délibéreront en sa possession. Les atteintes à l'oralité ont nécessairement pour corollaire une réduction du temps du procès, ce qui influera directement sur le processus d'intime conviction et sur la qualité des débats. Professionnaliser l'audience criminelle amènera légitimement les magistrats dont on note au demeurant qu'ils ne seront pas spécialisés dans l'intégralité de la composition, oui, parce qu'on va aller chercher des magistrats, je dirais, un peu partout pour composer cette cour criminelle de 5 magistrats, à adopter un processus d'écoute et de formation de la conviction équivalent au processus finalement du tribunal correctionnel. Et la réduction du temps de parole, d'expression des témoins, mais aussi des accusés et des parties civiles, anéantit même, écrit la présidente du SAF, l'idée même de la manière exceptionnelle et spécifique de juger les crimes. Qu'en sera-t-il par ailleurs sur l'appréciation des peines et leur motivation dans un débat exclusivement entre professionnels, familiers de la réponse carcérale? Le respect de la défense pénale et au-delà, la conception que le SAF a de la défense citoyenne ne peuvent qu'aboutir à un tel projet. À l'inverse, l'Union syndicale des magistrats, c'est également un document que je vous ai fait distribuer, s'est résolument prononcé dès le 14 mars 2018, dès que le projet a été annoncé, en faveur du tribunal, à l'époque du tribunal criminel départemental, et en souhaitant son expérimentation, ce qui d'ailleurs a été retenu, se positionnant par principe favorable à la création de ce tribunal criminel, au nom, encore une fois, de la question du délai raisonnable et de la nécessité de réduire le délai de jugement des crimes. D'autre part, l'USM se prononce aussi sur un autre sujet, dont peut-être on parlera tout à l'heure, qui est celui de la procédure de correctionnalisation, en considérant que la création du tribunal criminel devrait être une des solutions pour limiter le recours à la correctionnalisation d'un certain nombre de crimes, comme ceci se pratique depuis très longtemps. C'est un débat qui, effectivement, mérite d'être ouvert. Enfin, l'USM dit que, dans la mesure où le projet de loi prévoit une expérimentation, eh bien, même si on n'a pas évalué les besoins en magistrats, et l'USM écrivait à l'époque qu'une étude d'impact sérieuse aurait dû être faite, je n'ai pas connaissance qu'elle ait eu lieu, cette étude d'impact pour déterminer quel serait le nombre de magistrats qu'il faudrait recruter pour pouvoir faire fonctionner cette cour criminelle au niveau national. Donc, l'article que vous avez également dans le dossier de M. Blanc, très intéressant, paru dans l'AJ pénale d'avril 2019, l'avant-dernier numéro de l'AJ pénale, dans lequel M. Blanc, qui est vice-président de l'Association française de criminologie, qui est un remarquable et reconnu criminologue, magistrat spécialiste de la procédure criminelle, qui explique, alors je ne vais pas vous décrypter son article, vous le lirez par vous-même, et vous verrez qu'il est très intéressant, puisqu'il il rappelle simplement que il n'est pas certain que l'objectif de désengorgement sera atteint, mais c'est un objectif qui doit être recherché, et surtout il se prononce en considérant que la création de la cour criminelle, selon lui, ne portera pas atteinte à la qualité de la justice criminelle, ne portera pas atteinte aux principes fondamentaux, et devrait pouvoir permettre même d'améliorer le fonctionnement de la justice criminelle. Il va jusqu'à, encore une fois, soutenir clairement ce projet, en expliquant qu'il y aura un partage assez clair qui sera fait entre la compétence de la cour criminelle et celle de la cour d'assises, au regard, encore une fois, des peines encourues. Et puis, surtout, il est de ceux, soutien du projet de loi, qui s'arc-boute derrière l'idée que la fin de l'oralité des débats, Henri va nous dire dans un instant ce qu'il en pense, en fait ne serait que partielle, dès lors que, en appel, la cour d'assises retrouvera bien sûr sa compétence, y compris pour juger les crimes qui sont jugés en première instance par la Cour criminelle, et par conséquent, le principe de l'oralité, s'il disparaît en première instance, il continuera d'exister en cause d'appel, et il dit qu'on est entré, avec la motivation des décisions criminelles, dans une autre logique que celle de l'intime conviction péremptoire des jurés, on est entré, dit-il, dans la logique du raisonnement écrit et exposé, et dans ce cadre-là, il considère quant à lui que la création de la Cour criminelle répond à des objectifs légitimes et il se prononce résolument, clairement, en faveur de la création de cette nouvelle juridiction. Voilà à peu près comment les choses aujourd'hui se présentent. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Henri Leclerc, qui va nous expliquer tout le bien ou tout le mal, je pense tout le mal, qu'il pense de cette réforme. Et puis ensuite, on pourra échanger. Et moi, j'ai quelques idées à vous soumettre, de propositions d'action, si toutefois la conclusion de cette réunion était de dire clairement qu'il faut essayer de se mobiliser contre l'expérimentation de la Cour criminelle, qu'est-ce qu'on peut faire? On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'on peut déférer l'arrêté du 25 avril? Je rappelle qu'on a jusqu'au 25 juin pour le faire. Certes, le contrôle de constitutionnalité a déjà été exécuté, donc on ne peut plus aller demander au Conseil d'État d'annuler l'arrêté expérimentant la Cour criminelle comme étant contraire à des principes de la Constitution. En revanche, ce qui n'a pas été jugé par le Conseil constitutionnel, c'est évidemment la question de la conventionnalité. Est-ce que cet arrêté, qui introduit, encore une fois, cette manière différente de juger dans 7 départements pendant 3 ans, est bien conforme aux principes fondamentaux de la Cour européenne des droits de l'homme, des pactes internationaux? Je rappelle quand même que dans une décision très récente, qui en a surpris plus d'un, et j'en fais partie, la Cour d'appel de Paris, vous le savez, est venue dire qu'il fallait maintenir les soins apportés à M. Lambert, qui est en état végétatif, pour ne pas dire en état quasiment de mort depuis 10 ans, au nom du fait qu'il s'agissait là d'une voie de fait, parce que le comité des Nations Unies, qui avait été saisi par les parents de M. Lambert, s'est prononcé il y a quelques semaines en demandant qu'on suspende toute mesure d'arrêt des soins en attendant que le comité ait examiné au fond la requête présentée par les parents de l'intéressé. Bien, moi je dis que cette décision, pour surprenante qu'elle puisse être, je fais partie de ceux qui, il y a 20 ans, se battaient avec mon ami Tcholakian contre le dépôt des étrangers au palais de justice de Paris, où on s'était fait, je me souviens encore, on s'était fait bananer, pour employer le mot qui convient, par le tribunal des conflits, présidé exceptionnellement par le garde des Sceaux. Je vous rappelle que le garde des Sceaux est le président du tribunal des conflits et qu'il avait, en l'espèce, dans notre affaire, fait basculer vers la compétence administrative en ne retenant pas la voie de fait des étrangers retenus dans ce lieu sinistre. Aujourd'hui, avec cet arrêt de la Cour d'appel de Paris qui vient dire clairement que les pactes internationaux sont directement applicables en droit interne et qu'ils peuvent effectivement justifier, dans l'affaire Lambert, une décision d'injonction constatant la voie de fait et obligeant les autorités françaises à reprendre les soins, à ne pas les suspendre en attendant que le comité des Nations Unies soit prononcé, pourquoi ne pas imaginer que pareil raisonnement puisse être demain suivi pour contester la réalité, l'entrée en vigueur de ce texte. Dernier point, je donne la parole tout de suite à Henri. Dernier point, pour cet exposé liminaire, la question de savoir, dans la mesure où il est probable qu'on va avoir beaucoup de mal à échapper à l'expérimentation de la Cour criminelle dans les Yvelines à partir du 1er septembre, que va faire notre ordre? Pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose, et moi je pense qu'il faudrait que notre ordre fasse quelque chose. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on organise une permanence, une sorte de surveillance, qu'il y ait toujours des membres du Conseil de l'ordre ou de la commission pénale qui soient présents lors des premières audiences pendant les premiers mois pour voir comment les choses vont se passer, combien de temps vont durer les audiences, comment les témoins vont être entendus et quelles vont être les conséquences de l'entrée en vigueur de cette nouvelle procédure criminelle dans la manière dont les personnes qui seront jugées par la Cour criminelle le seront. Je crois que nous devrions suivre ça de très près, d'autant plus si nous voulons pouvoir, dans 2 ans et demi, faire valoir un certain nombre d'observations à travers les instances représentatives de la profession d'avocat. Mais là, je parle pour l'instant de l'ordre de Versailles auquel j'appartiendrai jusqu'à mon dernier jour. L'ordre de Versailles, me semble-t-il, ne peut pas rester, me semble-t-il, taisant muet sur ce qui va se passer à partir du mois de septembre dans notre département, comme ça va se passer dans d'autres. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire comme exposé introductif. Donc, je donne tout de suite la parole à mon voisin.
Merci, Didier. Alors. je te souhaite de rester membre de l'ordre des avocats de Versailles aussi longtemps que je suis à Paris. Tu as encore beaucoup d'années devant toi. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Je peux tout de suite me livrer à... Ah oui, là, ça va, vous m'entendez ?
Oui.
Je peux tout de suite me livrer à une critique point par point, à essayer une analyse de la situation et envisager ce que nous devons faire. C'est évident que ça va être sans doute le sujet de notre discussion. Mais je voudrais d'abord vous dire pourquoi cette expérimentation me paraît préoccupante. Ça, je l'ai dit dès que le projet de loi, l'avant-projet de loi, l'idée, est apparu. J'ai fait un article dans Le Monde qui m'a valu une volée de bois vert de beaucoup de mes amis. Je ne sais pas, Thierry Lévy me l'aurait sans doute critiqué, mais beaucoup d'autres, des gens tout à fait remarquables, me disant que j'étais vraiment trop conservateur. Bien. Et que c'était un progrès de... Ce sont des gens qui ne sont pas forcément des tétuliféraires de la répression. J'ai été reçu par Madame la garde des Sceaux, qui m'a fort aimablement offert un petit déjeuner. Je lui ai dit ce que je vais vous dire ce soir, sans doute. J'ai eu l'impression que, malgré ça, que sa courtoisie était un peu absente, je dirais. Voilà. Alors, maintenant, il faut voir ce qu'est ce projet, dans quoi il s'encadre et ce qu'il signifie. Car Didier vous a beaucoup dit, ce qui est en cause, c'est le principe de l'oralité. Je voudrais qu'on revoie le problème de la cour d'assises. Alors, je vais me livrer à mon penchant, c'est-à-dire vous faire quand même un petit exposé historique. Je vais entrer un peu dans le détail, parce que la signification de la cour d'assises doit nous apparaître clairement. Je dois dire que la cour d'assises d'aujourd'hui est très loin de la cour d'assises des origines. Premier point. Il faut remonter à l'Ancien Régime. Nous avons une justice criminelle qui est entièrement entre les mains de juges professionnels, qui est dominée par une obsession qui est celle du secret, qui est une justice très curieuse, puisque les décisions sont rendues sur des preuves recueillies par un juge d'instruction qu'on appelle à l'époque le lieutenant criminel du roi, qui a pour fonction de découvrir les preuves. Les preuves sont des preuves légales. Un aveu, c'est une preuve. Deux témoins directs, c'est une preuve. Quatre témoins indirects, c'est une preuve. Et huit oui-dire sont une preuve. Et donc, nous avons des débats, et nous savons que, bien entendu, la justice n'est pas publique, totalement secrète. Et nous avons même... nous savons que le juge d'instruction a un très bon moyen, comme les deux témoins directs et quatre témoins, tout ça c'est difficile à obtenir, c'est huitième de vérité, disait Voltaire, et qui disait huit huitièmes de vérité, ce sont des doutes. Bon. Et on sait que le lieutenant criminel du roi ordonne que l'on fasse avouer le suspect par la question, la torture. Et la torture, c'est très intéressant parce que les plus grands criminalistes de l'époque, je pense en particulier à Mouillard de Vuglan, qui est un type qui n'est pas du tout un esprit arriéré, qui est même presque un membre des Lumières, pas tout à fait, mais enfin il est quand même intervenu très courageusement pour le chevalier de la Barre, et fait une défense de la torture qui est absolument sidérante, expliquant que, comme c'est très difficile d'obtenir ces preuves légales, il faut bien qu'on fasse ça, si on veut. Et il dit, n'est-ce pas, comme la vérité doit être plus claire que le jour, eh bien, il faut faire ça. Il faut torturer les gens, comme ça, on a la vérité. Bon, je vous passe sur ça simplement pour vous dire que cette justice secrète, des décisions qui ne sont pas motivées, et on voit comment les juges débattent, ils ne débattent que sur une chose. Ah non, par exemple, on a trouvé le carnet d'un juge pour un des plus grands procès, et de quoi ils discutent? Ils disent non, ça c'est un oui-dire, c'est pas un témoignage indirect. Et pendant 3 heures, ils discutent de ça dans leur délibéré. Puis finalement, ils disent non, c'est un témoignage indirect, donc il en faut 4. Enfin voilà. Et ils rendent une décision qui n'est pas motivée, qui se contente de prononcer la sanction. Et le supplice, vous savez, lui est public. Bien. La révolution arrive. Les cahiers des États généraux s'indignent de cette justice secrète, qui a été, bien entendu, condamnée par Beccaria, par Voltaire. Tout le monde la condamne, cette justice. Et c'est la première chose que fait l'Assemblée nationale, puisque nous sommes après le jeu de paume et après le 14 juillet, après la Déclaration des droits de l'homme, qui est du 26 août, c'est-à-dire 14 juillet, 26 août, et nous avons une loi d'octobre, un décret-loi d'octobre, de l'Assemblée nationale, qui n'abroge pas la grande ordonnance criminelle, mais qui l'aménage. Et l'aménagement, c'est quoi? Premièrement, on donne un avocat aux gens, premièrement. Deuxièmement, les décisions doivent être motivées. Troisièmement, on met en œuvre un nouveau processus. Et donc, il y a des avocats à l'audience, on discute, très bien. Et quatrièmement, c'est pas très bien motivé encore, c'est la preuve par l'intime conviction. Il y a un débat absolument passionnant, si un jour l'un d'entre vous a du temps à perdre, qu'il le trouve, moi je l'ai retrouvé une fois, je le retrouve plus maintenant d'ailleurs, heureusement que j'ai pris des notes, le débat de la Constituante sur la justice. C'est passionnant, parce que c'est... Mais par qui va-t-on faire rendre la justice? Et on balance bien entendu les magistrats professionnels, parce que ça, eux, ils ont été complètement balancés le 4 août avec l'abolition des privilèges. Mais que va-t-on faire? Et c'est là que la justice anglaise apparaît. La justice anglaise, et ça Voltaire en avait beaucoup parlé, cette justice extraordinaire qui est rendue par le peuple. La Révolution française ne pouvait pas ne pas tenir compte de cela. D'ailleurs, elle va instaurer des jurés populaires. Et j'ai découvert une chose très amusante, c'est qu'elle va appeler ça un jury. Et j'ai découvert dans le Moniteur un billet d'humeur d'un type qui dit « Qu'est-ce que c'est que cette façon d'inventer ce mot de jury, qui est un mot anglais, alors que nous avons en français le mot jurande, et il y a un débat à l'Assemblée pour savoir si on appellera ça jury et jurande, mais l'exemple anglais est trop important. » C'est pas la justice anglaise qu'on interroge, mais très très proche. La justice qui est instaurée par la Révolution est très proche. Mais qu'est-ce qui est essentiel? Quelle est l'idée qui va animer les débats de la Constituante? Idée très nouvelle, très importante, qui est fondée sur le fait que l'homme de bon sens, le citoyen, d'ailleurs, quand on va faire le serment des jurés qui date de cette date, on va dire, on va parler simplement d'être un homme libre. C'est beaucoup plus tard, après Napoléon même, qu'on mettra probe. Mais pour eux, un homme libre est forcément probe. Enfin, il a du bon sens et ils expliquent tous que c'est le peuple qui est le plus intelligent. Bon, et surtout, quand on en met 12 ensemble. Et ils inventent l'intime conviction. L'intime conviction qui est définie par un texte qui est toujours celui, toujours le même. On a ajouté 2-3 bricoles, mais qu'on lit à la fin des audiences d'assises, et que vous le connaissez tous par cœur, la loi ne demande pas compte au juge des moyens par lesquels ils sont, etc. Bon. Donc cette idée de l'intime conviction, c'est-à-dire d'une conviction, non pas d'un truc vague, comme on le dit, mais d'une conviction fondée sur la raison des hommes libres, la raison des hommes libres du peuple, qui ont le bon sens, et qui, inéluctablement, vont bien juger. Et ils vont juger sur quoi? Non pas sur les pièces écrites. Non pas sur les pièces écrites. Parce que les pièces écrites, c'est n'importe quoi. Mais sur la parole, sur les témoignages, sur ce qui va être apporté à l'audience. Sur la parole des témoignages, sur l'accusateur public, sur l'avocat, et surtout sur comment les témoins sont entendus. Et à ce moment-là, dans tout ce qui est développé à l'audience, ils vont se faire une conviction. C'est ça le principe des jurés. Pas sur les détails, il y a eu des difficultés, ça n'a pas marché, et Napoléon arrive. Et Napoléon, qui a fait sa réforme du code civil en 1804, dit qu'il faut réformer le code de procédure pénale, le code d'instruction criminelle. Et donc il y a un grand débat au Conseil d'État, à l'époque c'est une assemblée législative un peu. Et Napoléon est très attaché à quoi? À la suppression des jurés. Il ne veut pas des jurés. Il n'ose pas très dire qu'il veut revenir à la preuve légale. Mais, bon, il y a un grand débat et il est battu. Il est combattu par les juristes, Cambacérès, un certain nombre d'autres. Ils disent non, c'est pas possible. On ne peut pas les jurés, il faut les garder, parce que ça, c'est, nous sommes quand même une république, etc. Et donc, on va avoir le code d'instruction criminelle. Ça me paraît très important, parce que ce code d'instruction criminelle va couper la poire en deux et va monter un système un peu déséquilibré qui revient jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est le code d'instruction criminelle qui rétablit le lieutenant criminel du roi. Bien entendu, Louis XVI a abrogé la torture contre le Parlement, je le rappelle, contre l'avis du Parlement. C'est le dernier acte du pouvoir législatif de la monarchie qui consiste à abroger contre l'ordonnance unanime du Parlement de Paris, à abroger la torture. La question. C'est Louis XVI qui l'a fait. Il l'a fait en 1788. Bon, ça, personne ne pense à rétablir la torture. Personne ne pense, mais on rétablit la procédure écrite préalable. C'est le juge d'instruction. On va pas appeler ça lieutenant criminel de l'Empire ou de la République, puisqu'on parle encore de République, non, c'est le juge d'instruction. C'est-à-dire une enquête écrite, totalement écrite et secrète. Et après, on passe à un procès totalement oral et rendu par des jurys sur une preuve, sur l'intime conviction, c'est-à-dire sur une preuve morale. Ça, c'est le système qui est mis en place. Ce système est très important parce que tout se passe à l'audience publique. Certes, il y a un dossier écrit. Ça sera d'ailleurs, tout ça foirera parce que ce dossier écrit, l'idée était qu'il soit contrôlé avant par une chambre de l'instruction qui était ce que les Anglais connaissent, c'est le grand jury. Vous savez, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, c'est un jury qui décide l'existence des charges. Ça nous paraît curieux. Mais aux États-Unis, vous devriez le savoir parce que ceux qui ne connaissent pas la procédure américaine ne vont pas au cinéma ou ne voient pas les séries à la télévision, mais on sait qu'il y a un grand jury qui d'abord détermine s'il y a des charges. On avait fait ça, mais en France, on avait mis à la tête du grand jury un président du jury qui était un professionnel. Ce président du jury, on les a recrutés dans les anciens juges, ils se sont révélés comme des juges d'instruction. Bon, toujours est-il qu'on fait ça, on crée la chambre d'accusation, pas sous cette forme, mais qu'importe, procédure écrite, jugement oral. Aucune communication entre les deux, si ce n'est que ce dossier écrit, est connu du président. Ça, c'est connu. Qui va mener l'interrogatoire à la barre, mais sous le contrôle d'avocats qui existent, et surtout, les jurés, qui sont 12 à l'époque, quoi qu'ils ont été un peu plus, mais ils ne pensent pas descendre en dessous de 12, 12 jurés. Alors, ils sont choisis d'une façon qui n'est pas très démocratique, enfin, passons là-dessus. Au début, si, puis après, non, bon. Nous avons 12 jurés. Les jurés, ils vont délibérer seuls, absolument seuls. Un principe absolu de la Cour d'assises dans sa création, c'est qu'il n'y a plus aucun contact avec le dossier écrit et avec la délibération. Le dossier écrit sert uniquement à permettre au président de conduire les débats de façon plus claire et d'avoir donc l'éclairage d'un certain nombre de choses qu'il peut faire. Mais le président, et ça durera jusqu'à un temps très récent, a l'interdiction absolue de lire une pièce du dossier à l'audience. Ça a disparu, mais je ne sais plus quand. Peut-être que c'est 2000, peut-être que c'est... Il a l'interdiction absolue de lire une pièce. Il peut décider de lire une pièce. S'il le fait, il doit prendre une décision particulière soumise à la Cour, et là, il décide de dire au greffier de lire une pièce. Mais pour le reste, c'est uniquement le débat oral qui compte, et c'est la pièce qui a été lue. Il est absolument interdit d'y avoir aucun contact pendant la délibération du jury, c'est interdit au président. Bon, ça c'est le principe d'origine. Donc vous avez un jury qui a eu les preuves qui ont été discutées, analysées à l'audience. Vous avez eu les plaidoiries. Plaidoiries, la partie civile va intervenir après, mais elle va intervenir à l'audience publique. Hein. Elle interviendra à l'instruction qu'au XXe siècle, mais à l'audience publique, à la Révolution, elle intervient. Vous avez sur la partie civile, vous avez les gens qui sont défendus. Je rappelle que depuis 1789, celui qui est défendu a un droit, un avocat. Et en 1789, le décret d'octobre 1789 dit que, si, premièrement, cet avocat pourra lire le dossier, on lui en remettra une copie. On lui remettra une copie, à l'époque il fallait... Hein, on lui remettra une copie du dossier, il pourra la voir. Il pourra voir son client à la prison comme il veut. c'est quand même assez. Et il aura un avocat, et s'il n'a pas les moyens, on lui en donnera un. Voilà. Ça, c'est 1789, hein, c'est pas. Bon. Alors, là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous savons que, je finis parce que faut bien voir l'architecture du départ. Nous avons donc un jury qui délibère seul sur la culpabilité, sur les questions qui lui sont posées, mais qui ne dit rien sur la peine. À l'époque, les peines sont fixes. Elles sont, par exemple, on dit le vol avec... Bon, parce que ça, c'est pas le criminel, mais enfin, on dit, par exemple, le meurtre sera puni d'une peine entre 20 ans et perpétuité. L'assassinat sera puni de la peine capitale. Telle peine sera entre 10 et 15 ans, etc. Travaux forcés, réclusion... Ben. Et donc, les jurés n'ont rien à dire sur la peine. Rien. Ils disent, il est coupable ou il n'est pas coupable. Et les magistrats qui vont rendre une décision, rendent une décision totalement juridique. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ah, monsieur, vous êtes poursuivi pour coup mortel avec arme, la peine prévue, c'est entre 15 et 20 ans, et les magistrats, ils ont une possibilité d'hésiter entre 15 et 20 ans. Surtout, il y a beaucoup de condamnations à mort, parce que l'assassinat, et peut-être d'autres innocents, il y a énormément de peines qui sont punies de la peine de mort, et les magistrats condamnent à mort, parce que les jurés ont simplement déclaré qu'il était coupable, ils n'ont rien à voir dans la peine. Et une première chose qui va obséder le pouvoir politique, c'est le très grand nombre d'acquittements qui sont prononcés. Et l'analyse qui est faite dans les années 28-30, 1828-1830, c'est les jurés acquittent parce qu'ils ne contrôlent pas la peine et qu'ils veulent que ce type soit condamné, mais pas à mort. Et comme ils n'ont pas d'autre solution pour dire qu'ils ne veulent pas qu'il soit exécuté, eh bien ils disent qu'il n'est pas coupable. Donc il y a une réflexion et on va faire une des plus grandes réformes du Code sous la Manche du 6 juillet en 1832, qui est l'invention des circonstances atténuantes. Avant, ça n'existait pas. Les jurés coupables, pas coupables, les magistrats, le droit à faire cette peine. Et là, je suis désolé, mon pauvre monsieur, on a dit qu'il était coupable, je suis bien obligé de le condamner à mort, il n'y a pas d'autre solution juridique. Là, on prévoit une question au juré, existe-t-il des circonstances atténuantes? Le tohu-bohu est considérable, là, tout le monde dit que ce n'est pas possible, existe-t-il des circonstances atténuantes? Et à partir du moment où les jurés recouvrent le pouvoir de dire, dans tel cas, il existe des circonstances atténuantes, le nombre des acquittements va baisser. Donc l'analyse n'était pas mauvaise. Mais il ne va pas énormément baisser. Alors je laisse tout le reste. Je rappelle que, au même moment, on avait décidé que les affaires inférieures seraient jugées dans un tribunal correctionnel par des magistrats professionnels. On a, en 1808, éliminé les jurés du tribunal correctionnel. C'est le seul point sur lequel Napoléon a gagné. Mais le tribunal correctionnel ne peut pas prononcer de peine supérieure à 5 ans. Quelles que soient les circonstances. Il n'y a pas de circonstances particulières. Une peine de 5 ans, d'ailleurs, quand je suis devenu avocat, c'était ça. Hein. Une peine au-dessus de 5 ans, c'était impensable devant un tribunal correctionnel. Donc, au tribunal correctionnel, on ne condamne pas à plus de 5 ans. Et donc, on se trouve avec cette situation, les magistrats professionnels jugent sur un manuscrit écrit, et on va voir tout le développement du tribunal correctionnel. Je rappelle que, quelle est la critique que l'on fait au tribunal correctionnel pendant tout le 19e siècle et tout le 20e, c'est le tribunal juge sur dossier. Le tribunal, devant le tribunal correctionnel, réduit l'audition des témoins. Petit à petit, pour des raisons d'organisation, il y a de moins en moins de témoins devant le tribunal correctionnel. Et on va même essayer de supprimer l'instruction en 1864 pour faire que là, à partir de ce moment-là, on le vienne uniquement sur le rapport de police, c'est la création des flagrants délits en 1864, qui est une création qui est l'objet d'une grande critique par rapport des 5 députés républicains qui sont au corps législatif. Mais le tribunal correctionnel, la grande critique qui est toujours faite, c'est la puissance du président. Les comédies de Jules Moineau, de Courteline et l'admirable nouvelle d'Anatole France Cringbille montre bien ça, Cringbille raconte ce président qui posait les questions et qui faisait lui-même les réponses, et elles étaient accablantes. Bon. Et donc, cette critique du tribunal correctionnel ne cessera jamais. On la connaissait encore aujourd'hui. c'est-à-dire un tribunal. Alors, certes, dans quelques affaires, quand on juge certains personnages, comme M. le maire de Levallois-Perret, on fait venir des témoins, non, on fait une vraie audience. Mais en règle générale, l'audience du tribunal correctionnel, nous le savons tous, se réduit à très peu de choses, c'est-à-dire à un monologue du président, à des réponses de l'accusé, et une plaidoirie de l'avocat, et les témoins, ben, le président en fait état dans son rapport. Et bon, bien. La cour d'assises va résister. Elle va résister difficilement, puisque... Mais elle va résister, je parle de toutes les... Sur l'instruction criminelle, l'instruction écrite continue d'une façon impitoyable, et l'objet de critiques constantes, jusqu'à ce que, contre l'avis, encore une fois unanime, mais cette fois-ci de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, en 1897, on permette à un avocat d'entrer dans les tribunaux devant les juges d'instruction. Donc l'instruction a été atténuée, par ça. Elle l'est, toujours. Il y a bien d'autres choses. Je laisse tout à fait le côté de l'instruction. Aujourd'hui, on n'en parle pas. La Cour d'assises, et il se passe une chose curieuse, c'est que la Cour d'assises continue à acquitter. Trop. Et en permanence, le pouvoir se plaint de l'importance des acquittements qui vont quelquefois jusqu'à 50% des affaires déférées en Cour d'assises. C'est-à-dire que la réforme des circonstances atténuantes n'a pas suffi. Les jurés continuent à acquitter parce que ils n'ont pas été... Alors, les avocats sont bons, sans doute, mais parce qu'ils n'ont pas été convaincus par l'audience orale. Et donc, on va cesser de dire il faut éliminer ces jurés. C'est pas bon. Et dans les cercles, y compris les cercles juridiques les plus élevés, on dit il faut éliminer les jurés. C'est pas une bonne justice. La preuve, c'est que vous avez des jurés, vous avez une décision d'un juge, le juge d'instruction. Certes, il ne relève que les charges. Bon, enfin, c'est très bien que les juges d'instruction, ils relèvent ce qu'ils sont, enfin, nous le savons bien, ce dont ils sont convaincus qu'il s'agit des preuves. Nous avons une décision de la chambre de l'instruction avant. Alors, ça a un peu été atténué quand on a permis le renvoi direct, mais il n'y a pas tellement d'années, je crois que c'est 2000 d'ailleurs, qu'on a permis le renvoi direct, mais il y a quand même, vous avez au moins 5 magistrats, le procureur de la République, le juge d'instruction, l'avocat général de la cour d'appel devant la chambre d'instruction et l'arrêt de la chambre d'instruction, vous avez tous ces magistrats qui ont pris position, qu'est-ce que c'est que ces jurés qui viennent acquitter ? C'est pas possible. Ces gens qui n'y connaissent rien, et tout ça, c'est le baratin des avocats. Enfin bon, la critique ne cesse pas. On veut réduire le pouvoir des jurés. On essaye, de temps en temps, on réduit le nombre des jurés. Bon. En 1933, toujours avec cette idée que ce qui semble préoccuper, c'est le fait que les jurés n'étaient pas suffisamment informés, que, bon, il y a pas mal d'affaires qu'on connaît à ce sujet-là, où les jurés disent après, mais non, c'est pas ce qu'on voulait, il a été condamné à mort, on ne voulait pas, etc. Bon. En 1933, on dit, bah, écoutez, ça suffit comme ça. Qu'est-ce que c'est le pouvoir absolu des magistrats ? Très bien, la première réforme. Bon, les jurés vont continuer à délibérer, et on est sûr, vous voyez que ça va rejoindre ce qu'on va vous dire tout à l'heure, on est sûr que les jurés délibèrent sur quoi ? Sur des preuves qui ont été débattues à l'audience orale, qui ont été expliquées à l'audience, connues de tout le monde à l'audience, insérées dans le débat contradictoire, il ne peut pas y avoir un document écrit qu'on interprète après. Non, tout est dans ce qui est dit de façon contradictoire par le président, les avocats, et l'avocat général. C'est ce qui se passe, c'est-à-dire que tout ayant été dit oralement, sauf effectivement quand le président décide la lecture d'une pièce, c'est possible, ou fait passer, il y avait même eu des gros débats juridiques pour savoir s'il pouvait faire passer les photos. Et surtout, interdiction absolue d'aller voir les jurés pendant le délibéré. C'est pas vrai, il y avait une possibilité. Il y avait une possibilité, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois dans toute ma vie. Je me rappelle d'une fois en particulier à Caen, où un grand débat se posait sur la position de celui qui avait tiré, mais il y en avait plusieurs, etc. Et c'était délicat parce qu'on était en plein délibéré et le président disait, voilà, il faut que les avocats viennent. Alors, vous savez ce que c'est, quoi, on est au restaurant d'en face, on est etc. Il y a un gendarme qui courait, alors on y va. Et là, je me rappelle très bien de cette affaire dans laquelle les jurés ont dit, on veut voir le plan des lieux. On ne l'a pas vu à l'audience. Et on a vu le plan. Et le président m'a dit, qu'est-ce que vous avez à dire? On dit à l'avocat de la partie civile, l'avocat général, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, donc, le débat oral a continué. Et c'était exceptionnel, puisqu'il fallait une décision spéciale pour faire ça. Et c'était, maintenant entendu, mentionné au procès-verbal, etc. Voilà quelle était la situation. Alors, 1933, donc, les jurés déterminent seuls sur la culpabilité. Là, on ne change pas. Mais on réunit après le jury et la cour, ce qui est considérable, et la peine va être une décision collective du jury et de la cour. Je dois vous dire que réfléchissant à ce que j'allais vous dire ce soir, j'ai essayé de voir quelle était la majorité requise. Je n'ai pas trouvé. Je le trouverai demain parce que ça m'énerve. Je n'ai pas trouvé sur Internet la loi de 33. J'en avais pas la date exacte, donc j'arrive. Mais il y avait une majorité peut-être spéciale, j'en sais rien, mais en tout cas la peine était déterminée par la cour et le jury. Ça ne suffisait pas. Les juristes continuaient, les juristes, le droit conservateur, enfin quand même, les juristes, l'USM, qui n'existait pas, mais je veux dire, tous ceux qui prennent position actuellement, là, dont nous parlait Didier tout à l'heure, disaient, mais supprimez-nous les jurés. Et c'est vrai qu'une idée géniale est née, on ne peut pas supprimer les jurés, qu'est-ce qu'on va faire? On va interdire aux juifs d'être jurés, bon ça c'est secondaire, mais on va surtout faire en sorte que les magistrats, et le président surtout qui connaît le dossier, délibèrent avec le jury. Ça, à mon avis, c'est la mort du jury indépendant. Pourquoi? Parce que nous savons tous l'importance, le poids d'un président dans une décision. Vous savez, vous avez sûrement la même chose à Versailles. Moi, j'ai eu de nombreux exemples. Je me rappelle le temps où, à Paris, nous avions deux présidents de cour d'assises. Monsieur Giresse et Monsieur Floch. Monsieur Giresse, c'était un président de cour d'assises où on avait toujours le double de ce qu'on craignait que les plus pessimistes croyaient avoir. Monsieur Floch, on avait toujours la moitié de ce qu'on croyait avoir. Et quand on voyait les résultats, c'était du simple au triple. Bon. Et voilà. Et malheureusement, si vous tombiez du mauvais côté, c'était ça, Or, c'était les mêmes jurés, enfin, ils étaient tirés de la même façon. D'autant plus qu'à partir de 1974, vous le savez, les jurés n'ont plus été désignés par des commissions de juges de paix, mais ont été tirés au sort sur les listes électorales. Donc, poids du président, qui a été toujours ce que nous avons contesté, c'est-à-dire que nous savons tous, il y a ici, j'espère, un certain nombre de gens qui ont été en cour d'assises, mais quel que soit le président, il y en a qui nous font plus peur que l'autre. Et il faut en tenir compte quand on plaide. C'est sûr. Il faut en tenir compte même pour essayer quelquefois de séparer les jurés du président, mais ce n'est pas facile. Toujours est-il que, en 1941, Plavichy, Barthélémy, garde des Sceaux, qui a couvert les sections spéciales, grand professeur de droit, spécialiste de la présomption d'innocence, signant la loi créant les sections spéciales. Il sera jugé à libération, mais on ne sera pas très méchant avec lui. Toujours est-il que c'est lui qui crée cela. Moi, j'ai découvert un texte extraordinaire qui a été publié dans la revue de droit pénal il y a très longtemps. Là aussi, il faut que je le retrouve. C'est la publication d'une lettre de M. Patin. M. Patin est un très grand juriste, très grand pénaliste, qui signera après les fameuses notes MPRR avec Maurice Rousselet, les signatures très célèbres du Dalloz. Et M. Patin est directeur des affaires criminelles. Et le dernier jour, vous savez que les actes, les lois de Vichy étaient, on les appelait actes dits lois. Mais on ne les appelait pas lois. Et ils étaient tous annulés, sauf à être validés par le gouvernement provisoire de la République, qui était présidé par De Gaulle, et beaucoup de lois ont été validées à l'époque, mais quelques-unes ne l'ont pas été, les lois anti-juives n'ont pas été validées, c'est évidemment. Mais là, sur la loi sur les jurés, M. Patin écrit au général De Gaulle, Patin était un résistant, il écrit au général De Gaulle, à l'époque d'ailleurs, on ne pouvait pas être directeur des affaires criminelles des grâces si on n'avait pas été résistant. Donc, le dernier jour de la possibilité de validation des actes des lois, disant, monsieur le président, je ne sais plus comment il l'appelle, il dit, voilà, il y a une loi qui reste un acte dit loi. Et il faut la valider avant que vous ayez perdu ce pouvoir. Il faut la valider, dit-il, parce que jamais notre l'électorat, jamais les citoyens votants n'accepteront cette idée que le jury est sous la présidence du président. C'est-à-dire que cette idée de l'amoindrissement des pouvoirs du jury, il dit à De Gaulle, si vous ne la validez pas aujourd'hui, c'est fini, jamais un Parlement ne le validera après. Bon. Et le dernier jour, effectivement, le dernier jour des pouvoirs du gouvernement provisoire de la République française, présidé par De Gaulle, la loi est annulée. La loi est validée. La loi est validée et on va avoir ce système. Alors, je ne parlerai pas des évolutions que j'ai connues après. Ce qui est intéressant, c'est cette pression constante pour qu'on réduise le nombre des jurés. C'est vrai qu'il y a aussi le fait que les jurés ont été tirés au sort sur la liste électorale, qui est en 1974 un progrès du début de la présidence de Giscard d'Estaing, c'est très important. Et, bon, moi j'ai connu la cour d'assises sous ces régimes différents, mais pas beaucoup. J'ai connu, quand je suis arrivé au palais, nous n'avions pas le code de procédure pénale, c'était encore le code d'instruction criminelle. La chambre de l'instruction s'appelait encore chambre des mises en accusation, mais en gros, ça n'a pas énormément changé. Simplement, toujours une tendance à réduire le nombre des jurés. Puis ça revient, et puis ça va. En 2000, on obtient ce que nous demandions depuis longtemps, c'est-à-dire la possibilité de l'appel. Mais si on voit les débats de l'an 2000, il y a une idée fondamentale dans ce gouvernement, qui est le gouvernement de la gauche plurielle. C'est que l'accusé peut faire appel, mais pas le parquet. Ce n'est pas par inadvertance que Mme Guigou ne met pas l'appel du parquet. C'est une décision du Parlement mûrement réfléchie et discutée. Dis non, ce n'est pas pensable. Des gens ont estimé qu'il y avait un doute, etc. Donc s'ils ont estimé qu'il y avait un doute, on ne va pas recommencer, faire un autre procès sur appel du parquet. Et arrivent les élections de 2002, dans lesquelles M. Jospin est un peu en difficulté avant même les élections. Il dit qu'il a été naïf en matière de sécurité, et Julien Drey dépose un projet de loi en mars 2002, deux mois avant les élections, permettant au parquet de faire appel dans toutes les affaires, premier point. Avant, le parquet pouvait faire appel incident, ça c'est sûr, mais faire un appel principal du parquet. Et deuxièmement, retirant l'obligation qui avait été donnée aux officiers de police judiciaire de dire aux gens qu'ils interrogent qu'ils pouvaient garder le silence. C'est les deux dernières lois de la gauche plurielle. Bien. Là-dessus, Jospin est malgré tout battu, puisqu'il y a toute une campagne sur la sécurité, et nous avons ce nouveau système. Alors, la situation avec le juré à 9 personnes, le premier juré à 6, le deuxième juré à 9, ne peut pas, mais vous avez une délibération des magistrats et du jury. Mais il est resté quand même des éléments fondateurs. L'élément fondateur, c'est le dossier est connu par le président. Et des discussions s'apposaient sur les notes que prenait le président avant l'audience. Et certains voulaient qu'on interdise au président d'emmener des notes préalables. Bon, jamais nous n'avons réussi. Moi, je l'ai demandé, mais non. Ça fait partie de ces éclats inutiles que l'on fait dans la vie. Mais quand même, le président, certes, a une autorité, certes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais il n'y a pas le dossier. Et toujours, si on veut voir le dossier, on fait une décision spéciale et on amène l'avocat. Et on ne peut pas donner au juré lecture d'une pièce nouvelle qui n'aurait pas été débattue à l'audience sans que l'avocat soit présent. Voilà. Voilà où nous en sommes. Alors, est-ce qu'il était urgent de proposer quelque chose d'autre? Là, excusez-moi, j'en arrive au cœur du débat, j'étais un peu long sur le premier point, mais j'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Allons sur le deuxième point. Et voyons voir quel est le sens de cette loi. On dit ça va accélérer. Je ne vois pas en quoi. Sauf à penser que les débats vont être plus courts. La seule accélération qui est prévue dans ce texte, si il y a quelque chose, maintenant, il faudra juger au bout d'un an, vous savez, il faudra juger au bout d'un an, et la prolongation pourrait être de 2 fois 6 mois, c'est-à-dire qu'on gagne un an, là. Bon, en gros, bien. Mais, à part ça, on va être obligé de trouver ça. Quel est sur quoi ils pleurent les premiers présidents ? Sur la difficulté qu'il y a à trouver deux magistrats assesseurs en cour d'assises. Je ne sais pas à Versailles, mais à Paris, j'entends des pleurs constants des magistrats sur ce sujet. Mais vous comprenez, mon pauvre ami, moi je suis accablé de travail, je suis le juge des expropriations, vous ne savez pas le travail que j'ai, et voilà que je suis obligé d'aller à la cour d'assises pendant 15 jours. Mais c'est épouvantable, enfin moi j'entends ça tout le temps. Et voilà, on a du mal à trouver, mais est-ce que si on va en trouver 5 ? Il va en trouver 5 magistrats. Alors ils ont trouvé une solution, qui est, mais les magistrats honoraires. Nous allons avoir sur ces 5 un magistrat honoraire. Vous savez, ces magistrats qui veulent encore juger après être à la retraite, et les magistrats honoraires, volontaires. Il y a 3 magistrats normaux.
Ouais.
Donc, même problème qu'avant.
Et deux peuvent être...
Plus un magistrat honoraire, plus un magistrat temporaire. Mais vous savez pas ce que c'est les magistrats honoraires, quoi. Ce sont d'anciens magistrats auxquels on a conféré cette qualité de magistrat honoraire. Tous les autres, tous les anciens magistrats l'ont, à part M. Giresse qui l'a pas eu, et tous les autres l'ont eu. C'est très rare un magistrat auquel on refuse la qualité de magistrat honoraire. C'est comme les avocats, enfin bon, pas vu quand même refuser, je ne sais pas votre ordre, mais en général, tu le sauras peut-être.
C'est peut-être, oui.
Moi, peut-être bien que j'aurais pas le temps de l'être, mais enfin bon. Mais le magistrat honoraire, c'est bien. Mais ce sont quand même des magistrats qui ont envie de juger quand ils n'ont plus le pouvoir de juger. Moi, ce que j'ai vu jusqu'à présent de ces magistrats, moi, les magistrats temporaires, c'est autre chose. Magistrats temporaires, ce sont des magistrats qui sont nommés sur décision complètement arbitraire, sur des diplômes, c'est d'anciens gendarmes, etc. On en fait des juges de proximité, des choses comme ça. C'est ça les magistrats temporaires. C'est plus que les magistrats honoraires. Et ces gens-là, comme les 3 magistrats et les 2 autres, le magistrat honoraire et le magistrat temporaire, ils vont être désignés par une décision totalement arbitraire du premier président, qui choisit s'il veut dans le corps de la magistrature. Ça ne me rassure pas. Je le dis franchement. Je préfère 3 magistrats en fonction qui vont s'abstraire de leur fonction pour aller en cour d'assises. La plupart sont consciencieux. Alors je le dis franchement, répressifs peut-être, mais consciencieux. Mais là, on trouve des gens et surtout, ce choix arbitraire du premier président, mais comment vous mettez en cause l'honnêteté du premier président ? Je ne le mets pas en cause. Mais peut-être que le premier président souhaite qu'on ait des magistrats. Au fond de lui-même, il pense que les peines prononcées par les tribunaux ne sont pas suffisantes. Je ne le dis pas qu'il craint que les gens ne déclarent innocents des gens qui sont coupables. Je crois que ça existe toujours. Vous savez, quand vous rencontrez un juge d'instruction dans une affaire qu'il a instruite et que vous avez eu un client qui est acquitté, il est convaincu que c'est une erreur judiciaire. Je n'ai jamais vu un juge d'instruction qui a instruit une affaire me dire il a été acquitté, c'est une bonne chose. Il dit toujours c'est une catastrophe, vous les avez bien eus. Bien. Ce sont les mystères de l'oralité des débats. Donc, moi je ne suis pas rassuré. Est-ce que des magistrats professionnels... Alors je veux dire une chose d'abord, avant d'entrer dans la critique. D'abord c'est la loi. C'est-à-dire que nous nous trouvons en face d'une situation où c'est la loi. Nous ne pouvons pas échapper. Pas vous plus que les autres. Vous pouvez faire des recours. Je n'ai guère confiance dans ces recours. Et parce que ces recours ne peuvent être que des recours devant la Cour européenne. Vous savez qu'il y a des pays européens qui ne connaissent pas les jurés. Bon. Et je ne vois pas la Cour européenne que je connais bien aussi. Je ne crains qu'elle ne touche pas. Elle touche rarement sur une disposition législative moderne, quelquefois sur une ancienne, comme elle l'a fait par exemple sur les écoutes téléphoniques et autres, mais sur une décision récente du Parlement, elle fait très attention. C'est vrai que la Cour d'appel de Paris vient de faire un truc inouï, c'est-à-dire de statuer contre l'État, contre le Conseil d'État et contre la Cour européenne des droits de l'homme. Ça, c'est rien pour voir. Je veux voir comment ils vont s'en sortir, parce que la voie de fait, moi je connais, j'ai fait ça pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'on crée le référé liberté devant le tribunal administratif. Bon, 30 ans, 40 ans, en effet. Mais là, c'est un truc, je crains que les les gesticulations que nous pourrons faire, même si on trouve encore un recours juridique, je ne vois pas lequel, hein, franchement. Donc nous allons avoir cela. Et donc nous faisons ce que nous avons toujours fait, c'est-à-dire que nous savons comment nous adapter à une loi nouvelle pour que nos défenses, nos clients soient toujours correctement défendus. Premier point. Donc nous allons avoir, donc pendant 3 ans, mais aucun problème, hein, toutes les lois provisoires, il y en a eu un certain nombre, la plus célèbre étant celle sur l'avortement d'ailleurs, toutes les lois provisoires ont été consacrées par la suite. Ça n'existe pas de tels essais qui sont abandonnés. Donc je crois simplement, et c'est ce que j'ai cru comprendre quand j'ai parlé avec la garde des Sceaux, c'est un ballon d'essai, c'est une façon de faire passer une réforme dont on n'a pas voulu la faire passer immédiatement parce que ça aurait été trop brutal, avec cette idée d'un essai, d'un palier, on verra. Bon. Donc je crains fort que cette réforme... Alors, est-ce que nous pouvons la faire capoter? Est-ce que nous, les avocats, nous pouvons, compte tenu de cette disposition qui, à mon avis, réduit notre position? Pourquoi? Parce que l'avocat, d'abord, dans cette idée que... C'est valable d'ailleurs pour les cours d'assises ordinaires aussi. Hein. Les assesseurs des cours d'assises auront aussi la communication du dossier. Et le délibéré avec les jurés se fera avec le dossier. Et moi, je serais surpris que les délibérés se fassent autrement que le président ayant le dossier devant lui. Bon. Et donc, les délibérés des jurés se feront avec le dossier. Quelle garantie avons-nous de ce que des éléments du dossier ne seront pas évoqués sur lesquels nous n'aurons pas porté la contradiction? C'est, à mon avis, la pire critique que je fais à cette réforme, qui n'est donc pas celle seulement de celle des magistrats professionnels de la Cour criminelle, mais celle de toutes les cours d'assises. Quels éléments aurons-nous? Ah, on me dit, mais les cours d'appel ne changeront pas. Bon, moi, je veux bien les cours d'assises d'appel. Mais qu'est-ce qui empêche le président de... Elles ne changeront pas. Il y aura quand même le dossier. Hein, le dossier sera là. Il y aura la motivation, le dossier sera là. Bon. À mon avis, le rôle de la défense est atténué. Parce que des éléments peuvent être évoqués en délibéré qui n'ont pas été débattus contradictoirement. C'est, à mon avis, le principal inconvénient de cette réforme. Le fait, bien entendu, qu'on oublie le peuple. Ah, on me dit, mais c'est pas la démocratie. Bon, le tirage au sort, c'est pas la démocratie, mais je viens d'entendre parler pas mal de ça. Le tirage au sort peut être aussi une expression démocratique. On parle aujourd'hui d'assemblée législative ou d'assemblée conseillante, ou pas au tirage au sort, de commissions qui seront faites par le tirage au sort. Le président de la République l'évoque lui-même. Tout le monde en parle dans les projets, peut-être, de ce qu'on va mettre en place après le grand débat, c'est-à-dire une démocratie législative par tirage au sort. Et voilà que l'endroit où existait une démocratie par tirage au sort, qui était la cour d'assises, voilà que cet endroit, on le conteste comme système démocratique. Bon, c'est la deuxième chose que je voulais dire. La troisième, est-ce que vraiment, nous avions tellement confiance dans les jurés? C'est vrai que nous savions le poids qu'avait dans les délibérés le président, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais enfin, il y avait des jurés. Et surtout, il y avait... C'était pas seulement une fiction. Les jurés, ce qui me paraît le plus important, étaient des témoins. Et l'audience, tout ça se déroulait devant des témoins. Et il y a des choses qui ne sont pas possibles à faire devant des témoins. Et il y a, au fond... Ils sont témoins. Moi, les jurés que j'ai vus, hein, ceux auxquels j'ai parlé, en règle générale, bon, quelquefois il y a des abrutis absolus, mais m'ont paru être en général des gens conscients de leurs responsabilités, se rendant compte de cela, voulant bien faire, se rendant compte qu'ils étaient en face d'une fonction essentielle. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu les témoins, et j'ai vu ça. On les supprime. On les garde à la cour, on verra après. Là, je pense que c'est une régression et que nous avons quoi comme obligation? Ben d'abord, nous avons une obligation de faire notre métier d'avocat. Je dirais même qu'il y a peut-être des cas dans lesquels nous devrons nous-mêmes. Vous savez ce que c'est un dossier. Quelquefois, on voit dans un dossier un point difficile. Puis on se prépare à l'audience pour le combattre. On s'est organisé, on a préparé sa défense. On dit sur ce point, voilà. Et puis personne n'en parle. Et on n'en parle pas. Et on se dit, personne n'en a parlé, donc on n'en parlera pas là. Est-ce que quand il y aura quelque chose comme cela, nous ne devrons pas, dans certains cas, prendre les devants et dire et faire en sorte que ça soit nous qui assumions l'oralité du débat en cour d'assises, qui forcions l'oralité du débat en cour d'assises, pour pouvoir contester des éléments qui sont susceptibles de revenir après. Bon. Je ne peux pas donner une stratégie de marche. Vous savez, ça se fait... Une stratégie d'audience, ça se fait en marchant. Hein. On arrive et puis on fait avec les instruments du bord. Hein. Mais je pense que, puisqu'on va retirer l'oralité, d'abord une première chose qu'il faudra vérifier, c'est qu'on ne va pas dans le sens de ce qu'a été la correctionnelle. La correctionnelle a consisté à sauver les audiences correctionnelles, à dire il faut qu'on puisse traiter 10 affaires à l'audience, donc pas de témoins. Vous n'avez qu'à voir quand vous voulez faire venir des témoins correctionnels, la réticence des présidents, des magistrats. Bon, il y a des témoins dans le dossier, il faut pouvoir les critiquer. Et en correctionnel, nous n'osons pas, quelquefois, demander et faire citer, par exemple, je ne sais pas moi, les policiers qui ont fait l'enquête, etc. Bon. Il ne faut pas que la cour d'assises devienne ça. C'est-à-dire, je pense qu'il faut que les avocats soient très vigilants à assurer un vrai débat contradictoire. C'est-à-dire à permettre, par exemple, d'interroger un policier, de voir que l'enquête a été faite de façon partielle, enfin, vous le savez tous, et de pouvoir, à l'audience, dire au policier, venez défendre votre dossier. Moi, je vous interroge. Je ne crains pas la vérité. Bon, ça, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir faire. Il va falloir, en tout cas, que nous essayions de restaurer l'oralité des débats. Ça va mal se passer, mais j'en sais rien. Il y aura des statistiques qui seront faites. On verra si... C'est vrai que 3 ans sans 7 cours d'assises, comparé aux statistiques des 3 ans précédents, comparé à un certain nombre de choses, on va voir si les peines augmentent. Il y a une chose que je sais, moi, c'est que tout le monde se plaint en permanence du nombre des gens qui sont en prison. N'en déplaise à Thierry Lévy, ce sont les magistrats qui en sont responsables. La criminalité, dans notre pays, n'augmente pas. On connaît tout à fait les statistiques. Pas les statistiques de la criminalité qui sont encore cachées. En tout cas, les statistiques de la pénitentiaire, elles sont parfaites. Elles existent depuis 100 ans, même un peu plus, 130 ans. Elles sont parfaitement tenues. On sait très bien comment ça se passe. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons un accroissement régulier et permanent du nombre de détenus. Et pourtant, il y a le juge de l'application des peines. Bon. Nous constatons surtout un accroissement considérable du nombre des prévenus. Qui est responsable, alors que la criminalité n'augmente pas, de l'accroissement considérable du nombre de prévenus? 5 200 en 10 ans. Qui en est responsable? Moi, à mon avis, c'est que je crois que les magistrats croient à la force répressive et qu'ils croient qu'il est juste de réprimer. Juste pour l'ordre public, juste pour la société. Je ne peux pas, je dis, j'ai un différent idéologique avec eux sur ce sujet, mais je ne dis pas que pour autant, la détention provisoire, qu'est-ce que vous voulez, elle est quand même plus nécessaire aujourd'hui, hein, ça fait 20% en plus quand même, plus nécessaire aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Moi, si quelqu'un me le démontre, si quelqu'un me démontre qu'aujourd'hui la criminalité a augmenté, c'est pas vrai. Toutes les statistiques de criminalité qu'on a montrent au contraire une diminution de la criminalité, y compris dans les endroits où elle augmentait beaucoup, on croyait que c'était les cambriolages, c'est pas vrai. Il y a une réduction de la criminalité constante, surtout de la criminalité grave d'ailleurs, et en même temps, il y a un accroissement complet des prisonniers. Qui en est responsable? Nous, quelquefois, puisque nous n'avons pas su convaincre les JLD. Mais on a réussi à obtenir, et qu'est-ce qu'il a fallu comme travail pour obtenir que ça ne soit plus le juge d'instruction qui place en détention. Il a fallu, moi je me suis battu pendant 40 ans sur ce sujet, jusqu'en 2000. Hein. Je me suis battu pour qu'on ne laisse plus au juge d'instruction le pouvoir de placer en détention. On a obtenu le JLD. Est-ce que ça a réussi à sauver les choses? Moi, j'en suis pas sûr. Vous savez, le doyen Ripert, rédacteur du Plagnol et Ripert, il y a qu'aux civilistes que ça peut dire quelque chose. Les pénalistes ne savent pas ce que c'est, mais moi, j'en ai l'édition complète et c'est des lectures qui me plaisent. Enfin, bon, je suis un peu dingue. Le Ripert, en tout cas, a écrit un texte absolument extraordinaire. C'est l'homme le plus conservateur qui existe. Il disait, lorsque le législateur cède aux saisies, au désir du changement, le juge est le gardien du statisme judiciaire. Il s'arrange pour que le changement n'ait pas d'effectivité. Bon, la création du JLD, je crois malheureusement que ça a été un peu ça. Parce que le JLD n'a pas fait régresser, comme nous espérions, la détention, il l'a augmenté. Directement, on crée le JLD, la détention provisoire augmente. Bon, c'est comme ça. Alors on pourrait me dire que ce n'est pas le cas à Versailles, tant mieux. Mais la statistique nationale est celle-là. Donc, cette confiance absolue au magistrat, ben vous me direz, c'est un discours d'avocat, ça. C'est un discours d'avocat, vous ne voulez pas que les gens aient en prison. Ouais, mais est-ce que c'est la justice que les gens n'aillent pas en prison? C'est un problème dont on peut discuter. Est-ce que nous pouvons considérer qu'aujourd'hui, la répression est trop forte? Ah, c'est un discours d'avocat. Ce qui m'étonne, c'est qu'un type comme Jean, que je connais très bien, comme Alain Blanc, que je connais très bien, qui a été longtemps président de la Cour d'assises, c'est un homme, un très bon président, et un type modéré, qu'il en soit partisan. L'USM, bon, c'est un peu comme ça. Mais un certain nombre d'autres gens, et des avocats, les François Saint-Pierre, Daniel Souessarrière, moi, ça me sidère qu'ils soient d'accord avec cette réforme, et qu'ils souhaitent en définitive, comme le souhaitait Thierry Lévy, la disparition des jurés populaires. Bon. Alors, si effectivement dans 3 ans, on s'aperçoit que les peines ont diminué, que les affaires ont été jugées beaucoup plus vite, que finalement le nombre de personnes en détention, envoyées en détention longue par la cour d'assises de Versailles, celle de Rouen et puis les autres, est en régression, je dirais quand même, je me suis un peu trompé dans mon analyse. Je souhaite que le rapport soit là-dessus. Mais en tout cas, nous les avocats, nous devons rester vigilants. Excusez-moi, je suis beaucoup trop long. Nous les avocats, nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants, d'abord parce que je vous le disais, on ne peut pas faire autrement. On a des clients, on va y aller, on va les défendre. Il faut, je dirais, les débats vont être un peu différents, sans doute. Nous pouvons moins tricher que nous le faisions quelquefois. Nous devons jouer plus cartes sur table. Et peut-être notre argumentation doit être l'argumentation destinée à des juges. Je suis un peu embêté sur les juges temporaires, je le dis franchement. Elle doit être destinée à des juges. C'est pas tout à fait la même. C'est vrai, nous devons nous adapter. Nous devons nous adapter et faire en sorte que, dans cette composition, la justice soit toujours rendue de façon contradictoire. Il y a des difficultés. C'est devenu la loi, le Conseil constitutionnel a dit banco, les syndicats de magistrats, pas l'USM, mais l'USM au moins disent c'est très bien, les magistrats en prennent à Paris, nous allons voir. Et il nous appartient à nous de faire en sorte que les droits de la défense soient parfaitement respectés dans ces affaires, et que nous forcions l'écoute. Nous n'acceptions pas à ce moment-là que les magistrats ne nous écoutent pas. Nous avons un rôle, à mon avis, qui est un rôle de force, de bras de fer. Parce que là, vous comprenez, vous aurez des magistrats, les 5 magistrats, leurs collègues du parquet. Hein. En plus, vous aurez un magistrat en rouge, 5 en noir, 4 en noir, et puis un parquet en rouge. Bon, il faut absolument, me semble-t-il, que là, nous battions. C'est-à-dire que nous ne baissions pas les bras, et que nous savions que nous devons adapter notre défense, mais qu'elle doit toujours être aussi forte. Bon, je répondrai aux questions après, excusez-moi d'avoir été aussi long.
Alors,
débat est ouvert.
Il n'y a pas de questions, je pense.
Bah, si. Alors, le débat est ouvert.
Le micro marche.
Pierre, voilà, Pierre va passer le micro. Mélodie.
Je voulais simplement, c'est pas tellement une question, mais plus une observation. J'étais au colloque pénal du SAF à Marseille il y a peu, et on a fait un colloque sur le thème de l'oralité. Donc on a beaucoup parlé de cette question-là. Et on a une ethnologue qui a suivi beaucoup des cours d'assises et qui a écrit un livre, de mémoire c'est Madame Besnier, qui est venue nous parler un petit peu de son expérience quand elle avait suivi ses cours d'assises. Et elle nous a parlé de l'exemple suisse, qui à mon sens doit un peu nous questionner, puisque justement chez eux les jurés ont été supprimés. Alors a priori à la demande du peuple en fait, hein. Il y a eu des référendums, etc. Et on a considéré que les jurés n'avaient plus leur place aux assises. Et elle a assisté à plusieurs audiences suisses, et elle disait que ce qu'elle avait constaté vraiment, c'est que les magistrats, systématiquement, quand les accusés s'exprimaient, leur disaient « Oui, mais bon, ça, monsieur, c'est dans le dossier, vous l'avez déjà dit, c'est pas la peine de revenir là-dessus, ça, ça figure au dossier. » Et que finalement, en fait, on leur donnait plus le droit à la parole, ne serait-ce que pour s'exprimer sur les faits, pour raconter tout un tas de choses. « Oui, ça, un témoin, oui, c'est votre déclaration, est-ce que vous avez autre chose à nous dire? Tout ce qui est dans le dossier, on le sait déjà. » Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir être vigilant à la cour criminelle, qu'on ne tombe pas dans ce travers-là, de complètement supprimer l'oralité et qu'on nous dise « bah tout est dans le dossier », comme on peut entendre parfois en correctionnel, hein, finalement. Et c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on soit vigilant. Voilà, je voulais juste soumettre cette observation au débat.
C'est une très bonne observation.
Bien sûr. Oui, il y a quelqu'un. C'est sûr qu'on aura évidemment intérêt à réintroduire l'oralité. Et pour ça, effectivement, à se battre pour que les cours criminelles ne soient pas des tribunaux correctionnels criminels. En fait, c'est ça. C'est ça qui nous pend au nez. Hein. Et pour ça, on aura quand même un certain nombre de moyens. On pourra faciliter les témoins. On pourra quand même se forcer les magistrats à les écouter. On pourra poser des questions. Ce sera à nous de faire notre boulot. Et comme disait Henri, c'est vrai que l'avocat d'assises qui pouvait parfois un peu, je dis ça sans aucun esprit péjoratif, un peu tricher avec le dossier, parce que justement la cour d'assises n'avait pas le dossier, bah, il faudra être beaucoup plus rigoureux. Il faudra qu'on soit beaucoup plus rigoureux dans notre manière d'exercer la défense. Mais l'oralité, ce sera à nous de la réintroduire dans la cour d'assises. Si on ne veut pas que la cour criminelle devienne un tribunal correctionnel criminel. C'est ça qui va être l'enjeu qu'on va avoir dès le mois de septembre ici à Versailles, à mon avis.
Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans le cadre de l'expérimentation, je crains que les magistrats professionnels, au début, comme c'est une gestion des flux, se disent « on va effectivement peut-être diminuer les peines pour éviter des appels », parce que c'est quand même le but, c'est ce que tu nous as dit effectivement tout à l'heure, mais ça on le sait, qu'après l'expérimentation, une fois que ça sera devenu la norme, on retombe effectivement sur des peines qui seront peut-être beaucoup plus supérieures à celles qu'elles auront été pendant la phase d'expérimentation. Et ce que je crains aussi, c'est ensuite en appel, la pression qui sera sur les jurés, puisqu'on va leur dire finalement, vous allez déjuger 5 magistrats professionnels qui avant vous ont jugé que tel crime valait tant, et aujourd'hui vous, 5 jurés populaires, vous allez remettre en cause effectivement cette décision. Et moi, ce décalage, et j'ai pas souvenir que dans notre système juridique, on ait une première instance avec des magistrats professionnels et en appel une autre composition. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me choque. Et j'ai bien compris que faire un recours serait difficile, même si on en parlera tout à l'heure. Mais ce qui me semble primordial, en tout cas, et c'est l'idée que tu avais soumise tout à l'heure, Didier, c'est de faire un observatoire, certes au barreau de Versailles, mais je pense qu'il faut que les 7 barreaux qui sont concernés effectivement par l'expérimentation aient une même grille de lecture de l'ensemble des dossiers, nature par nature de dossiers, avec les noms effectivement des présidents et autres, et qu'on sache les peines qui ont été requises, les peines qui ont été ensuite appliquées, et s'il y a un appel ou pas. Et je pense qu'au bout de 2 ans et demi, ce sera intéressant que les 7 bâtonniers et que les 7 ressorts puissent faire une synthèse pour qu'on puisse, à ce moment-là, peut-être encore, si on voit que malheureusement cette cour criminelle n'est pas ce qu'on souhaitait et que ça ne va pas dans l'intérêt du justiciable, on puisse peut-être faire en sorte que, eh bien, on revienne dessus pour revenir au système actuel. Mais je pense qu'en tout cas, il est de l'obligation des 7 bâtonniers de se mettre ensemble pour faire une grille commune de lecture, et ça fera aussi pression, je pense, sur la chancellerie et sur les magistrats qui seront finalement, qu'ils sont quelque part surveillés.
Oui. Bah, on peut peut-être. Tu veux pas réagir,
ouais, à ce que disait. Non, ça me paraît tout à fait juste. C'est très bien de faire ça. Alors, je ne sais pas comment on va pouvoir. C'est pas très facile. Enfin, on va bien se rendre compte des choses. Il faut surtout, à mon avis aussi, établir un contact avec les avocats qui seront dans ces affaires. Vous pouvez avoir, d'ailleurs, à Versailles, vous avez quand même un certain nombre d'avocats, en particulier de Paris, qui viennent. Je crois qu'il serait bon de prendre un contact. Et moi, je pense que je vais demander à... Il faudrait que l'Association des avocats pénalistes, par exemple, secoue les choses. Je vais demander le SAF de Paris, pourrait le faire aussi. C'est-à-dire savoir que nous avons quand même une cour d'assises proche, qui est une cour d'assises dans laquelle nous allons quand même. Hein. Pareil pour Nanterre, hein, et les Créteil, ils viennent ici quand même. Donc, faut faire pour que dans les barreaux périphériques, principalement à Versailles, etc., il y ait des comptes rendus. C'est-à-dire qu'on essaye de faire, et c'est très bien l'idée que tu as de le faire dès maintenant. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que ça commence. Bon, Rouen, à mon avis, c'est d'ailleurs les premiers avec lesquels il faut être en relation. Parce que les autres, je ne sais pas qui c'est.
Ben, les autres, c'est les Ardennes. Moi, je regardais un peu par rapport au SAF. J'ai dit, bon, ben, Rouen, on va pouvoir se mettre en relation avec eux. Le Cher aussi. Le Cher, on a Bourges, il y a aussi des gens. Par contre, dans les Ardennes, c'est plus compliqué. Le Calvados aussi, on a une section du SAF très active.
Ah, attendez, à Caen, il n'y a pas de problème, oui.
Justement, donc, le Calvados, le Cher, la Seine-Maritime et les Yvelines, on a quatre départements, on va pouvoir.
Et les autres, c'est les Ardennes.
Les trois autres, c'est les Ardennes, la Moselle et la Réunion.
Ah, la Moselle, attendez, la Réunion. Il y a un barreau dynamique en Réunion.
Mais on va les contacter.
Et la Moselle, c'est Metz.
Oui. Dans les jours. Alors, d'ailleurs, la Moselle, je vous fais observer que, on l'a vu avec Jean-Marc sur Internet, je ne l'ai pas mis dans les documents qu'on vous a envoyés, mais le barreau de la Moselle est le premier parmi les sept concernés qui a déjà pris une motion s'opposant. Elle vaut ce qu'elle vaut, la motion. Disons, on va s'opposer à l'expérimentation, on n'est pas d'accord. Bon, moi, d'ailleurs, je vais les contacter parce que je voudrais savoir ce que le bâtonnier de Moselle compte faire. Est-ce qu'il envisage, par exemple, de ne pas commettre d'office, ce qui me paraît quand même compliqué, ce qui me paraît même absolument impossible.
Nous ne pouvons pas faire des choses qui nuisent à...
Voilà. Qu'est-ce qu'ils envisagent de faire? Qu'est-ce qu'ils envisagent de faire en Moselle? Ils ont pris une motion du conseiller de l'ordre qui dit c'est un scandale, nous sommes absolument opposés à ça et nous allons nous battre. Mais bon, ça c'était Jean-Marc, il me semble que c'était... Non, c'était à la sortie de l'arrêté. Donc au moment où déjà... Comment ? La messe était dite. Alors, la messe était dite. Moi, j'en suis pas totalement convaincu. Et je pense qu'on a jusqu'au 20... En tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire.
Ah, pour faire un recours.
Faire un recours sur l'arrêté. Je suis pas certain. D'abord, et même si on le perd, on le perdra. C'est pas...
Et tout le monde sur quoi ?
Sur les textes, alors justement, le fonder sur quoi, c'est ça qui est compliqué, sur le principe d'égalité.
Bah oui, mais le Conseil constitutionnel.
Oui, d'accord, mais sur la conventionnalité, sur la violation de la Convention européenne, sur la violation du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pas évidemment sur la Constitution. La Constitution, c'est réglé par le Conseil constitutionnel. Ce qui n'est pas réglé, c'est le contrôle de conventionnalité de l'arrêté qui introduit par l'expérimentation une différenciation dans la manière de juger les gens selon qu'ils sont dans l'un des sept départements ou ailleurs pendant 3 ans. Ça, il me semble quand même qu'il y a matière à envisager au moins. Enfin, moi, c'est ce que je compte faire, de demander
sur une décision. C'était une décision arbitraire. C'est-à-dire que pas seulement parce qu'il y a que quelques départements, mais parce que ces départements ont été choisis de façon arbitraire par le pouvoir,
c'est ça.
Sans justification de ce choix.
Voilà. Pourquoi les Yvelines sont choisies et pas les Hauts-de-Seine ?
Je ne crois pas beaucoup, mais enfin.
Non, mais je veux dire.
Mais faut peut-être faire quelque chose. Mais là, il serait bon que les 7 barreaux le fassent.
Moi, je vais faire une proposition. Je pense que ça serait bien que ce soit le CNB, parce que le CNB a quand même pris une position officielle contre le principe. Il me semble que ce qui serait logique, c'est que cet arrêté soit déféré au Conseil d'État par le CNB. Mais si le CNB ne le fait pas, moi je vais le proposer à mon barreau. Et puis si mon barreau ne le fait pas, je vais le proposer à mon syndicat. Puis si mon syndicat ne le fait pas, ben je le ferai tout seul.
Et s'il n'en reste qu'un,
Mais je pense vraiment qu'il faut faire un recours contre cet arrêté. Mais même si ce recours a, j'en suis bien conscient, très peu de chances d'aboutir. La preuve, c'est que ça fait une semaine je me creuse les méninges avec sur ce sujet, et je n'ai pas encore trouvé l'argumentaire sérieux au regard de la Convention européenne ou du pacte international pour dire voilà sur quoi on pourrait fonder un recours. Et, en gros, ça tourne autour du principe d'égalité et du caractère arbitraire du choix des départements et du fait que des gens vont être jugés différemment selon l'endroit où le crime aura été commis. Ça me paraît quand même susceptible de poser un problème qu'on pourrait aller poser au Conseil d'État. Voilà,
alors, Didier, je vais vous dire, c'est vrai que...
J'ai le micro, si vous me permettez d'essayer, c'est moi, Jean-Luc Tisson, de faire avancer le débat. La Cour d'assises avec magistrats professionnels, ça existe depuis très nombreuses années, avec les cours d'assises spéciales, spécialisées en matière de terrorisme
ou de
trafic de stupéfiants.
Oui, bien sûr.
Or, on ne peut pas dire que les cours d'assises spéciales, bon, quand on y passe, c'est pas forcément très drôle, mais on ne peut pas dire qu'il y ait plus de sévérité qui soit marquée au regard de la gravité des...
Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ceci étant, bon, moi j'ai fait recours devant la Cour européenne, sur les cours spéciales, dans une affaire qui était assez drôle, si je puis dire. Et c'est une affaire dans laquelle des gens étaient accusés d'un crime extrêmement grave en Corse, et j'ai un client qui a fait 6 ans de détention provisoire. Et il niait les faits. Au bout de 5 ans, on l'a fait tous les recours. Et au bout de 5 ans, on a commencé par les coureurs, on nous flanque la création de la Cour d'assises spéciale, ça doit être en 86. Et je fais immédiatement un cours à Strasbourg. Et puis, je ne peux pas empêcher le procès de venir, je passe sur des trucs, acquitté. Alors, j'ai fait un autre recours, c'est l'affaire Tomasi qui est bien connue, j'ai fait un autre recours à Strasbourg sur les violences volontaires dont le type avait été victime au commissariat, la France a été condamnée, j'ai fait un autre recours sur... Mais mon recours sur l'absence d'impartialité de la juridiction était quand même difficile, puisque mon client avait été acquitté par la Cour d'assises spéciale, et j'y renonçais. C'était peut-être que la Cour aurait statué quand même pour dire... mais enfin, c'était un peu difficile. Mais depuis, c'est vrai que ces cours d'assises spéciales, spécialement composées, auxquelles j'ai eu affaire dans un certain nombre de circonstances, c'est vrai qu'au fond, elles sont... On verra la pratique. Mais enfin, quand même, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais c'est vrai qu'ils ont là, c'est vrai que c'est un argument qui est vrai. On peut quand même pas dire... Alors, c'est difficile de faire des comparaisons, parce que ces cours d'assises spéciales ont en général des faits particulièrement graves à juger. C'est rare qu'ils jugent des faits simples. Mais c'est vrai que... Et puis alors, les juges qui sont désignés dans ces cours d'assises spéciales le sont dans la situation actuelle. C'est-à-dire que je ne peux pas tellement dire qu'ils sont désignés arbitrairement par le premier président de la Cour d'appel. Ils le sont, hein, puisque c'est lui qui les choisit comme il veut. Mais je sais comment il les choisit. C'est-à-dire qu'il choisit plutôt quand même dans la sphère pénale. Et on a pas mal de juges d'application des peines. Et il les choisit un peu en fonction des disponibilités, parce que la Cour d'assises spéciale de Paris qui... Oh, il demande aux tribunaux, il me faut quelqu'un. Bon, donc nous avons des juges qui sont des juges. Ce sont pas ils sont pas volontaires en général pour faire ce travail. Hein, je dois le dire. Mais là, nous allons avoir des magistrats honoraires et des magistrats temporaires qui n'ont que ça à faire. Et là ça m'inquiète.
Sur la fête, il pourrait y en avoir deux. Hein. Parce que le texte dit 2 des 5 seront soit temporaires, soit
honoraires.
Ça veut dire que les deux peuvent être honoraires.
Ah, mais absolument.
Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure.
Deux magistrats.
J'avais compris que tu disais qu'il ne peut y avoir qu'un seul.
Ah non.
Non, les deux peuvent être honoraires ou les deux peuvent être temporaires.
Les deux peuvent être honoraires ou les deux peuvent être temporaires.
Voilà. Ça donne un pouvoir considérable au premier président. Je voulais dire autre chose par rapport à la question des cours d'assises spéciales. C'est un des documents qu'on vous a envoyé. C'est dans le dossier documentaire du Conseil constitutionnel sur la décision concernant ce dont on discute aujourd'hui. La jurisprudence qui est citée, c'est celle du Conseil du 3 septembre 86 sur la loi relative au terrorisme.
C'est celui dont je te parle.
Qui précisément crée les cours d'assises spéciales en matière de terrorisme. Le Conseil dit quand même un certain nombre de choses qui, me semble-t-il, pourraient être utilisées, y compris dans le cadre du contrôle de conventionnalité, non plus de constitutionnalité, puisque le Conseil dit quand même qu'il est loisible aux législateurs compétents pour fixer les règles de la procédure pénale de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que ces différences ne procèdent pas de discrimination injustifiée et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe du droit de la défense. Je ne suis pas certain qu'on ne puisse pas faire porter la critique sur ces questions de principe dans la mise en vigueur de l'arrêté du 25 avril 2019. Donc je pense en tout cas, je milite moi pour qu'un recours soit fait par la profession.
Et tu me le rappelles, mais je me souviens que mon recours à Strasbourg était fondé justement...
Là-dessus.
Il était fondé là-dessus, mais c'était très difficile parce quand on avait un gars qui avait
été acquitté. Voilà. C'était compliqué. Quelqu'un.
Je me permets de reprendre la parole parce que je voulais faire une autre observation. Alors, c'est pas tout à fait lié, mais sur la question de l'appel. C'est un élément qui a été soulevé, encore une fois, au colloque du SAF pénal par Christian Saint-Palais, qui est donc président de l'Association des avocats pénalistes, qui nous disait qu'il allait falloir qu'on soit très vigilant sur la question de l'appel, puisqu'on peut limiter son appel à la question de la peine, et pas de dire « bon, je suis coupable, je veux juste aller en appel pour la peine ». La question risque de se poser très vite, à mon avis, dans les plus hautes instances, de l'opportunité de conserver les jurés en appel si finalement on vient juste discuter de la personnalité. Donc il va falloir aussi qu'on se méfie sur ce point-là, qu'on ne supprime pas en plus les jurés en appel sur ces dossiers-là. Donc ça, c'est autre chose qu'il va falloir qu'on surveille.
Précisément, si personnellement je pense qu'il faut se mobiliser très très sérieusement, je parle de la profession d'avocat, contre cette expérimentation, c'est parce que je suis absolument convaincu que l'étape d'après sera la suppression définitive des jurés, y compris en appel.
Oui.
Parce que après on va nous dire, attendez, c'est pas la peine, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Donc on va les supprimer définitivement. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs intitulé cette soirée de formation, avec un point d'interrogation, va-t-on vers la fin de l'oralité et va-t-on vers la fin des jurés?
Je suis convaincu que c'est ça. Je suis convaincu que c'est une étape intermédiaire.
Prends le micro...
Oui, alors moi j'ai deux vraies questions.
Ce sont des vraies.
Première question, je n'ai pas étudié de manière précise la réforme s'agissant de la citation des témoins, mais il m'avait semblé que dorénavant, il y avait une limitation très importante du droit de faire citer des témoins devant la cour d'assises. Alors, j'ai été à une précédente formation, j'avais retenu qu'il y avait un délai d'un mois, mais très...
Ah non, 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 c'est pas ça. Ça y est.
J'ai dû comprendre de travers.
Oui. Mais... Non, je vais vous expliquer, parce que ça, il faut le savoir. Parce que moi, j'ai eu l'affaire d'assises dans les jours. Heureusement, j'ai lu la loi avant. Car maintenant, il faut dénoncer les témoins que vous deviez dénoncer dans les 5 jours précédant l'audience au parquet et aux parties civiles, ou quand vous êtes partie civile, au parquet et à l'avocat et à l'accusé. La liste des témoins que vous entendez faire entendre. Vous savez que cette dénonciation est obligatoire. Et elle l'est depuis je ne sais pas quand. Et là, ils ont porté le délai à un mois.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il faudra dénoncer les témoins que l'on veut faire entendre un mois avant.
C'était jusqu'à la veille.
Et j'ajoute... Avant, c'était jusqu'à la veille. Et là, j'ajoute autre chose auquel il faut faire attention. Là, je dirais, là, on est vraiment dans l'information, hein. C'est que vous savez que le code prévoit qu'on peut demander à l'avocat général de citer 5 témoins.
C'est ça.
Eh bien, il fallait le faire 5 jours avant l'audience.
C'est ça.
Maintenant, il faut le faire 10 jours avant le délai d'un mois. C'est-à-dire que vous devez dénoncer vos témoins dans le délai d'un mois, et les 5 témoins dont vous demandez que l'avocat général les fasse citer, vous devez le faire un mois et 10 jours avant. Et moi, je m'en suis aperçu, 1 mois et 12 jours avant, ça a nécessité une certaine rapidité dans l'exécution.
Mais en réalité, la réforme, fondamentalement, ne remet pas dans le principe en cause la liberté de faire citer tous les témoins qu'on veut. Simplement, elle rend plus compliqué, elle rend plus difficile, elle impose à préparer son dossier plus longtemps à l'avance, puisqu'il y a des 1 mois au lieu de la veille. Il faut faire savoir 1 mois avant quel témoin on va faire entendre. Alors qu'on pouvait jusqu'à présent...
Mais ça, c'est devant la cour assise ordinaire. Hein,
absolument. On pouvait jusqu'à présent, jusqu'au dernier moment, décider, rajouter un témoin au dernier moment. Et les cinq témoins dont on demandait la citation aux frais de l'État à l'avocat général, on pouvait le faire en théorie pratiquement sans délai jusqu'au dernier moment.
Cinq jours avant.
Donc c'est vrai que maintenant ce sera plus long, mais néanmoins n'est pas remis en cause quand même la liberté de faire citer tous les témoins qu'on veut.
Alors
simplement il faudra les citer plus en amont.
Alors j'ajoute deux dispositions de la loi qui, je ne sais pas d'où elles sont sorties, mais la première, concernant les témoins, c'est pour ça. Le président aura le droit d'interrompre un témoin quand il estimera que ses explications sont suffisantes, et il pourra à ce moment-là lui poser des questions. Vous savez qu'il y avait une disposition très antique dans le code qui doit dater du code d'instruction criminelle, dans lequel on expliquait que le témoin commence par une déclaration préalable. Et ce qui provoquait, c'est vrai, en cours d'assises, des moments un peu difficiles quelquefois. Parce que le témoin arrivait, et le président lui disait, monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire ?
Le témoin disait rien.
Je ne peux pas vous poser de questions puisque vous n'avez rien à dire. Bon. C'est pas très, très important, mais quand même, je trouve que cette disposition qui permet au président d'interrompre un témoin, qui le marque dans le code, parce qu'actuellement, ça se faisait. Quand un témoin était trop long, le président disait « Monsieur Abrégé », etc. Bon. Alors, l'avocat gueulait, il disait « C'est pas bien, laissez-le parler. » Ou l'avocat était bien content que le président ait interrompu le témoin. ça dépendait des situations. Mais bon, que ce soit dans le code, ça peut... Mais non, il y a une disposition qui me paraît stupide, c'est « Les témoins ne sont pas obligés de dire quelle est leur intime conviction dans cette affaire. » Ça, c'est ahurissant, parce que d'abord, ça veut dire qu'ils peuvent le faire. Ils sont pas obligés de dire leur intime conviction. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, enfin? Je ne sais pas, ça c'est à mon avis un amendement stupide d'un député à un moment donné. Voilà. Alors il y a ça. Vous savez que les témoins ne sont plus obligés de dire leur intime conviction. Bon.
Mais, ça va rien changer à mon avis.
Ça va rien changer, mais c'est des dispositions un peu sottes.
Oui.
Ça va
rien
changer parce que ça peut amener des questions en douille. L'avocat général ou du contraire de la partie civile qui pose la question de la...
Justement, le témoin n'est plus obligé de répondre.
Oui, mais écrire ça dans le texte...
Bah, c'est stupide, on est d'accord.
Ça donne l'idée qu'ils
peuvent le faire. Alors, monsieur, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais dites-moi quelle est votre intime conviction. Bon.
Il va y avoir un autre problème qu'on va mesurer ici dans 3 mois, c'est que...
Mais ça, c'est les affaires d'assises ordinaires.
Combien de temps ils vont prévoir sur les affaires ? Une affaire qui, en temps normal, était prévue sur 3 jours, par exemple, là, ils vont la prévoir sur quoi ? Sur 3 heures ? Sur une demi-journée ? Sur une journée et demie ? Comment ils vont faire ? Dans la mesure où ils sauront à l'avance, plus que maintenant, ça, c'est la réforme de... La citation préalable des témoins. Combien il y aura de témoins cités, il sera peut-être plus facile aussi d'organiser la durée prévisible des débats. Mais est-ce que, parce que moi j'ai quand même le souvenir ici qu'on a quand même eu des présidents de cours d'assises qui ont été gentiment priés d'aller voir ailleurs, dans notre département, il y a quelques années, parce que ils avaient l'heure de fixer les audiences qui étaient jugées trop longues. Sur plusieurs jours, parce qu'ils estimaient qu'il fallait prendre le temps d'entendre les témoins, d'entendre tout le monde. Et on a quand même eu à un moment donné, je pense que ça ne va pas être le cas que dans les Yvelines, des choix des présidents de cours d'assises de notre département, qui étaient, dont l'un des critères de désignation par le premier président, était lié à leur capacité à accepter, leur docilité à accepter, de réduire la durée des audiences. Parce que tout ça procède de cette volonté, réduire la durée d'audiencement. Bon, en vrai, on dit, c'est pas évident du tout que ça va marcher. Mais par contre, ce qui va marcher, je pense, c'est réduire la durée des audiences.
La durée des audiences. On a quand même l'habitude, les pénalistes. Et on va voir tout de suite.
Oui.
Vous avez des affaires dans lesquelles, si c'est fixé sur 3 jours, ça nous paraît déraisonnable. Et donc, je pense qu'il faut à ce moment-là immédiatement intervenir, peut-être avoir une lettre type, immédiatement intervenir. Il y a une deuxième chose sur laquelle je crois qu'il faut intervenir plus souvent. Nous ne le faisons pas en général, parce qu'on ne veut pas créer d'incident. C'est pas l'intérêt de notre client, c'est la longueur des audiences. Il est intolérable que dans une cour d'assises, les audiences se terminent tous les soirs à 10h. C'est intolérable. Et il y a quelque chose, les Américains ne le supporteraient pas. Vous savez que les audiences américaines sont courtes. Parce que c'est impensable. Et donc, à mon avis, une audience qui fait 3 heures le matin et 4 heures l'après-midi, ça suffit. C'est-à-dire qu'il faut dire que les magistrats professionnels n'ont pas le pouvoir de résistance suffisant pour nous écouter. Quand c'était des jurés, encore, bien, mais puisque ce sont des magistrats professionnels, non, il faut exiger des audiences plus longues. Hein. Et enfin, en tout cas, ne pas accepter une réduction. Nous savons déjà, je ne sais pas comment ça se passe à Versailles, mais nous savons déjà que les présidents, parce qu'ils disent on n'a pas le temps, j'ai tellement d'affaires, etc., ont une tendance à faire des audiences qui s'étalent en longueur. Hein. Eh bien, il ne faut pas, c'est-à-dire que là, il faut les prendre à leur piège. Hein. C'est-à-dire, vous avez fait ça pour... c'est pas pour écourter les débats, parce que c'est pas possible d'avoir des audiences qui se terminent à plus d'heure avec... on est là avec les magistrats tous, on est là 10 heures par jour, 12 heures par jour. Quel est l'endroit où on peut faire que les hommes, les hommes et les femmes, avec attention, plus de 12 heures par jour, c'est pas possible. Hein. Et moi, là-dessus, je trouve qu'on est... Moi, je me reproche une certaine lâcheté sur ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'on a une affaire d'assises, on ne veut pas durcir les choses, ça ne se passe pas trop mal, bon, ben tant pis, ça dure un peu, mais bon, voilà. Et quelquefois, c'est pour ça qu'il faut quelquefois prévoir les choses. C'est-à-dire que, puisqu'il va y avoir ces nouvelles audiences, je pense qu'il faut dire que ces audiences doivent durer, premièrement, le temps suffisant, ça va, et deuxièmement, que ce temps ne soit pas pris sur la nuit. Voilà. Et dire que, voilà, moi, on arrête l'audience en 6 heures, je sais pas, moi, je n'ai pas une heure fixe, mais enfin, moi, je trouve que les audiences qui durent après 6 heures, c'est déjà plus pas très sérieux.
Oui, mais ça, c'est lié au fait que, ça, il me semble que ça existait moins, tu sais ça beaucoup mieux que moi, il me semble que ça existait moins il y a 20, 30, 40 ans. Les audiences, elles prenaient le temps nécessaire, et comme on a voulu réduire, toujours pour les mêmes raisons, la durée des audiences, ben du coup, on allonge la durée des audiences quotidiennes.
Ah oui, non,
parce que au lieu de prévoir une affaire sur 5 jours où on commence à 9h30 et on termine à 18h normalement, de 3h le matin à 4h l'après-midi, eh ben, au lieu de la fixer sur 5 jours, on la fixe sur 3 jours, mais on commence à 9h30, mais on ne finit pas à 18h, on finit à 19h, 20h, 21h, 22h, voire 23h parfois.
Bah, attendez,
et on plaide le dernier jour, parfois très tard le soir.
Celui qui fut votre premier président, Boulard, qui était président de la Cour d'assises de Nanterre pendant très longtemps, mais qui était pas mal, hein.
Qui était
un bon président.
Très bon président.
Mais on avait des audiences qui se terminaient horriblement tard.
Ouais, je me souviens.
Et je me rappelle d'une fois où ils ont rendu leur décision à 8h30 le matin, et où il y avait un problème puisqu'ils avaient une autre audience qui commençait à 9h. Et donc, il y avait des jurés. Alors, je me rappelle très bien, ils ont prévenu l'avocat général et est-ce que vous pourriez récuser ces jurés ?
Parce que c'est les dormir.
Laissez-les dormir un peu. Non, voilà. Donc, c'est pas nouveau quand même. Hein. Mais c'est pas possible, quoi, les audiences qui se terminent comme ça dans des conditions. Mais nous-mêmes, on est épuisés.
Mais je pense que nous, les avocats en général, on ne se bat pas suffisamment par rapport à ça. C'est-à-dire que dès qu'on a le rôle d'une session qui arrive, qu'on sait que notre affaire est prévue sur tant de temps, qu'on sait combien il y aura de témoins qu'on va faire citer, on devrait tout de suite prendre contact avec le président, on ne le fait pas assez, pour dire, attendez, c'est pas possible cette affaire sur 3 jours, pour telle et telle raison, il y a tel et tel témoin, vous ne l'avez pas imaginé, mais moi je vais le faire citer, voilà, donc il y a tel expert qui va venir, donc réviser, parce que finalement, on n'est pas consulté. On n'est jamais consulté sur le... T'es consulté quand
on jamais.
Dit l'affaire va être ton... votre affaire va être fixée sur tant de temps ?
À jamais. J'ai une affaire, d'assises. On fait citer, par exemple, des témoins de moralité. Mais il me dit, mais enfin, vous avez fait citer 6 personnes de la famille. Oui. Et alors, monsieur le président, enfin, vous auriez dû en faire citer qu'une, ça va nous prendre du temps. Ben non, je vais lancer. Moi, j'estime qu'il faut les entendre. Après, on le regrette.
Mais moi, je pense que ce débat-là sur la durée des audiences, il va être beaucoup plus prégnant avec la Cour criminelle qu'il ne l'est aujourd'hui.
Non, je pense surtout que puisque vous avez la chance, si je puis dire, de faire cette expérimentation, c'est une raison pour essayer de faire une action collective. Avec le barreau, avec le SAF peut-être, l'Association des avocats pénalistes, pour faire une action collective. Et moi, je vais appeler Saint-Palais. Je pense qu'effectivement, l'Association des avocats pénalistes devrait faire une coordination avec les avocats de province, etc., pour qu'on fasse, on essaye de voir quelles peuvent être les revendications que nous avons à ce sujet.
Dès le début.
Et parce que, si vous voulez, l'avocat qui intervient seul, bon, c'est bien, c'est notre courage personnel, mais en même temps, nous savons très bien que notre courage personnel est toujours en conflit avec l'intérêt de notre client, quelquefois. Et qu'on a toujours tort. Hein. Et quelquefois, nous évitons de faire des choses en disant « ça a porté préjudice au client ». Donc il faut à ce moment-là collectiviser un peu l'intervention. Ça serait bien que vous pouviez le faire. Et c'est l'occasion à Versailles.
Est-ce que oui ? Attends, mais prends le micro.
Non, non, j'ai pas besoin. Je suis pas une spécialiste d'abord d'assis, j'y ai plaidé quelques fois. Pour les témoins, est-ce qu'on peut demander au président, en vertu de son pouvoir discrétionaire, d'entendre un témoin qui n'était pas sur la liste ?
Ça, ça existe, bien sûr.
Donc en fait, on peut contourner l'obstacle.
Ceci étant, c'est le pouvoir discrétionnaire.
Donc il veut bien accepter.
Non, ça, demander d'entendre un témoin en vertu du pouvoir discrétionnaire, il faut en principe avoir une justification sur le fait que vous n'avez pas fait citer. Attendez, en général, il ne faut pas exagérer, nous n'avons pas toujours des mauvais rapports avec les présidents de cour d'assises. Moi, je sais que quand je fais citer les témoins au pouvoir discrétionnaire, c'est assez rare que le président me les ait refusés. C'est-à-dire que vous arrivez, vous dites, écoutez, voilà, on ne l'a pas fait citer, la mère de mon client, entendez-la en vertu de votre pouvoir discrétionnaire, j'accepte.
Ah, c'est plus facile pour les témoins de personnalité que pour les témoins sur les faits. Sur les faits, c'est plus compliqué à obtenir.
Sur les faits, surtout quand ils sont déjà dans le dossier, là, maintenant, ça va être encore pire, c'est plus difficile. Il faut, à mon avis, prévoir en amont, très fermement, le problème des témoins, et vous savez qu'il faut être très vigilant. C'est-à-dire que c'est pas par le nombre de témoins qu'on gagne forcément l'affaire.
Je pense d'ailleurs qu'on devrait demander, notre ordre devrait demander au Premier Président d'obtenir que les fixations des audiencements de la Cour criminelle à partir de septembre soient connues suffisamment longtemps à l'avance pour les sessions qui sont fixées, justement puisqu'on doit avoir on doit citer les témoins plus longtemps qu'avant. Il faut qu'on puisse s'organiser, qu'on puisse éventuellement discuter la durée des audiences. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à obtenir, et ça c'est l'ordre qui peut l'obtenir, qu'on ait les calendriers des sessions plus en amont qu'on ne les a actuellement.
Ah, je vous rappelle.
Comment ? Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Excuse-moi.
Je voulais faire une remarque sur une session d'assises que j'ai vécue. C'est un président qui disait que, je l'ai dit à la formation l'autre jour, c'est que les jurés avaient de plus en plus de pouvoir. C'est-à-dire qu'en gros, la session durait de plus en plus longtemps parce qu'ils posaient de plus en plus de questions et qu'ils délibéraient peut-être de plus en plus longuement, etc. Et que la présidente disait « Oh là là, Nanterre, c'est incroyable, c'est une horreur. » Enfin, en fonction des endroits, les jurés se comportaient différemment dans leur façon d'interroger, de poser des questions. Et en fait, ils participaient, comme l'avocat, à soulever les lièvres.
C'est une très bonne nouvelle.
Ben, oui.
Comment j'ai pas entendu.
Je trouve que c'était une très bonne nouvelle.
Mais oui, donc je me dis que peut-être cette réforme, elle vient aussi contre ça. C'est-à-dire que les jurés ont un pouvoir de plus en plus grand et peut-être qu'ils contribuent à des acquittements que certains avocats n'auraient pas pu avoir.
Oui, ben, c'est très bien. L'idée qu'un acquittement est une mauvaise nouvelle pour la justice m'apparaît toujours choquant. Mais ça, c'est l'ensemble de la magistrature qui en est convaincue. Il y a une espèce de déformation professionnelle. Un acquittement est un échec. C'est vrai. Compte tenu de nos systèmes de procédure, c'est vrai qu'un acquittement, après l'instruction, après la chambre de l'instruction, c'est une certaine façon, un échec en ce qui les concerne. Vous savez, j'ai raconté une histoire que j'ai souvent racontée, mais c'est quand même important. Quand j'étais tout jeune avocat, je débutais chez mon patron Albernaud, et j'étudiais un dossier. Et je m'aperçois avec horreur que l'arrêt de renvoi de la cour d'assises était strictement identique au réquisitoire de l'avocat général. J'étais très jeune à l'époque. Et je m'aperçois que le réquisitoire de l'avocat général était copié sur l'ordonnance de renvoi du juge, qui était elle-même copiée sur le réquisitoire définitif. Aujourd'hui, un avocat qui vous dit ça, il dit « Mon garçon, apprends ton métier ». Bon, alors je suis allé voir mon patron, avec les pièces à la main, en lui disant « Mais monsieur, c'est scandaleux, c'est effrayant, regardez, ils sont... l'arrêt de renvoi, en fait, il a été rédigé par le substitut du procureur ». Et mon patron m'a dit « Mon petit... la prochaine fois, tu t'arrêteras au rapport de synthèse de la police. Bon, c'est vrai. C'est une tendance de cohésion de l'instruction écrite. Et évidemment, l'instruction écrite, là, achève sa conquête. C'est-à-dire que maintenant, l'instruction écrite qui a conquis le tribunal correctionnel, attendez, on a quand même des relax quelquefois au tribunal correctionnel, mais après un renvoi par un juge d'instruction, c'est assez difficile. Après une enquête de police quelquefois, bon, voilà.
Je crains que ça ne soit plus difficile devant la cour criminelle que devant la cour d'assises.
Ah bon, on va voir.
C'est à voir, hein.
Non mais attendez, c'est très simple. Sur 3 ans, c'est pas mal.
Mais oui.
Parce que vous avez quand même une statistique.
Oui, c'est pour ça.
Je sais pas combien vous avez d'acquittements ici, mais ça doit être. Peut-être 10 ou 20%.
10%.
Bon. Eh bien, vous verrez.
Oui.
S'il n'y a plus d'acquittement, ça sera
intéressant. Ce que je voulais juste dire par rapport à ça, je te laisse juste la parole après, c'était que quand on lit les débats sur la loi, toutes ces discussions très intéressantes qu'on est en train d'avoir là n'ont absolument pas eu lieu au Parlement.
Non.
C'est-à-dire que le débat sur l'article 63 d'expérimentation, la création de la cour criminelle, est-ce que ça, c'est la fin des jurés, est-ce que c'est la fin de l'oralité, est-ce que ça remet en cause le principe de ceci, l'histoire que Henri nous a rappelé, l'histoire tumultueuse de la cour d'assises, tout ça n'a absolument pas été dans le débat. Hein. Le seul débat, ça a été, les délais sont trop longs, il faut réduire les délais, on a trouvé une solution pour réduire les délais, tout en garantissant les droits.
Vous comprenez, on n'a plus les moyens.
Voilà, on n'a plus les moyens, donc il faut qu'on fasse la justice avec les moyens dont on dispose. Ça, le débat, il s'est résumé à ça. Cécile.
Quel est votre point de vue sur l'acceptation ou le refus pour les dossiers dans lesquels aujourd'hui on a
l'ordonnance ? Ah oui. Qu'est-ce que
vous êtes tout à l'heure ? Ça va être le cas de tous les premiers dossiers, d'ailleurs.
Les
dossiers qui arrivent en cour d'assises maintenant, voilà, ils ont été renvoyés par la chambre d'instruction il y a 6 mois.
Oui, alors absolument. Ça veut dire qu'il n'est pas d'ailleurs certain. Je ne sais pas combien d'audiences il y aura en septembre, puisque ça suppose une décision de renvoi postérieure au 13 mai.
Elle peut être antérieure.
Non, mais attends. Si elle est antérieure, il faut l'accord de tout le monde. Voilà. Donc ça ne peut pas être imposé aux accusés dont l'ordonnance de renvoi est antérieure au 13 mai 2019. Donc je ne suis pas certain, pour prendre notre département, je ne suis pas certain qu'il va y avoir beaucoup d'affaires à audiencer dès le mois de septembre.
Mais qu'est-ce qu'on fait ?
Alors,
si tu fais un dossier, qu'est-ce que tu fais ?
Alors là, moi, je n'ai pas de réponse.
Moi non plus.
Moi, je n'ai pas de réponse à cette question.
Et c'est en fonction de quoi ? Quels seront vos éléments
Déjà, j'aimerais savoir qui seront les 5 magistrats qui composeront la cour criminelle des Yvelines, déjà. Ça m'intéresse de savoir qui ça sera. Parce que, excuse-moi, je ne vais pas donner des noms ici, mais si c'est certains noms ou certains autres noms, ma réponse risque de ne pas être la même. Comment tu ne sauras pas ? Mais bien sûr qu'on le saura. On le saura.
Les assesseurs, etc., ça va changer.
Ben, on le saura.
Ah, mais attends.
On le saura, ce ne sera pas anonyme.
Ah, mais attendez.
Il va y avoir.
C'est très intéressant parce que la cour criminelle est composée par le premier président.
C'est ça.
Et je n'ai pas vu, peut-être que j'ai mal lu, je n'ai pas vu un délai de sa composition.
Non.
Ah, mais ça, à mon avis, c'est très important.
Non.
Il faut l'exiger. Il faut exiger d'avoir la composition. Dans ces affaires-là.
Est composée. La cour criminelle qui siège au même lieu que la cour d'assises est composée d'un président et de 4 assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel, parmi, pour le président, les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel, et pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort, 2 des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires. À aucun moment, il n'est mention d'un délai. Donc combien de temps avant et pour combien de temps vont-ils être nommés ? À la limite, il peut en nommer et s'apercevoir que ça ne convient pas.
Il va être nommé à chaque audience.
C'est ça ?
C'est à chaque session.
Oui,
dans la situation actuelle, les assesseurs sont nommés pour la session.
C'est ça.
Mais à mon avis, ils peuvent être changés. Il faut éclaircir ce problème.
Eh ben, si tu veux, si t'as le choix entre, je donne pas de nom. Si t'as le choix entre certaines personnes, il est bien évident qu'avec certains présidents, je pense qu'on a un certain nombre ici, on va dire tout de suite, dans ce cas-là, on va préférer la cour d'assises normale ou la cour criminelle.
Alors,
quand on connaîtra qui seront les présidents.
Il y a une réunion.
Maintenant, est-ce que le président de la cour criminelle à 5 magistrats aura plus de pouvoir sur ses 4 assesseurs que le président de la cour d'assises en a sur les 6 jurés ? C'est une question. Moi, j'ai pas la réponse. Hein. Là, il y a des questions qui sont ouvertes. Hein. Écoute, je ne sais pas, j'attends
de voir quand la délibération est posée. Bon, moi j'ai eu quand même souvent des informations sur les délibérés. Pas beaucoup, mais j'en ai eu. Certes, je ne les ai jamais entendues, parce que je n'ai pas le droit. Mais enfin, les jurés qui parlent après, ça j'en ai connu quand même, hein. J'en ai trouvé. Je me rappelle même d'un juré ici, à Versailles, dont j'étais convaincu dans une affaire où la peine de mort était encourue, et qui était un juré qui posait des questions terribles. J'ai dit, mais pourquoi je l'ai récusé, mon gars, il est condamné à perpète. Et je sors...
Pourquoi je ne l'ai pas récusé,
ce type, oui, pourquoi je ne l'ai pas récusé. Et je sors et je vais boire au café, là, qui est au coin, juste en face, le demi, le gars est condamné à perpète. Vous savez, dans ces cas-là, on était très contents. Et on le sort et je trouve ce type, il me dit, vous n'êtes pas trop déçu. Ah, je lui dis, vous savez, c'est ce que j'ai demandé. Moi, il dit, j'aurais voulu lui mettre 20 ans. Là, ça aurait été vraiment un bon résultat, compte tenu des faits. Mais voilà, si vous voulez, le juré, on ne sait pas... Mais il y a des jurés qui résistent. Et il y a des assesseurs qui résistent. Il y a des assesseurs qui résistent. Hein. Ça, je le sais. Mais il y a des assesseurs aussi qui poussent à la décision. Ça, je l'ai eu. Je me souviens d'une affaire où j'ai eu un acquittement à Aix, où un juré que j'ai rencontré dans les rues une heure après m'a dit, si vous saviez ce que l'assesseur a fait pendant tout machin, il n'arrêtait pas de dire, il faut condamner.
Mais pour répondre à ta question, dans l'article 1 de l'arrêté, il est effectivement pas du tout précisé les conditions dans lesquelles il va être demandé l'accord de toutes les parties pour renvoyer devant la cour criminelle une affaire dont l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises a été rendue avant le 13 mai 2019.
Il y a une chose qu'ils peuvent faire pour les
autres spectaculaires. En tout cas, la seule chose qui est précise dans le texte, c'est qu'on ne peut pas nous prendre l'initiative de le demander. On ne peut pas nous dire, je souhaiterais qu'on envisage la saisie
non,
de la Cour.
Non, mais ils sont obligés de nous le demander.
Mais ils sont obligés de nous demander notre avis et d'avoir notre accord. Ah oui, si pour un renvoi antérieur au 13 mai, c'est impossible de saisir la Cour criminelle si toutes les parties ne sont pas d'accord.
Alors ça, à mon avis, vous avez un certain nombre d'affaires qui sont antérieures au 13 mai, qui sont en attente.
À noter que notre bâtonnier rencontre, je crois, le 20 juin, notre madame le bâtonnier rencontre le 20 juin, donc 15 jours, les présidents pédos et correctionnels qui vont bien pour coordonner l'ensemble de la loi de cette année, du mois de mars, et qu'effectivement devrait être abordée la question de la nouvelle cour d'assises et peut-être faudrait-il...
Je ne suis pas sûr qu'elle ne sera abordée. Mais...
La commission pénale devrait faire retour.
Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets dans la loi.
C'est prévu, c'est au pénal, c'est un rendez-vous sur le pénal.
Didier, sur la cour criminelle.
Et sur la comparution.
Didier, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, et les présidents nous contactent toujours pour nous communiquer les dates. Est-ce que avec la nouvelle réforme,
pour vérifier qu'on est,
ils vont se contenter de nous balancer un avis d'audience comme ça, ou comme un correctionnel, ou on recevra, ou
ça m'étonnerait que ça change. Je pense qu'on nous appellera pour nous demander si on est disponible.
Oui.
Ça dépend de la durée.
Comme a priori les audiences vont être plus courtes.
C'est ça, c'est que ça dépend de la durée en fait.
Non, mais attendez, il n'est prévu nulle part dans le code que l'audience d'assises doit être fixée avec l'accord de l'avocat. Mais je dois dire, il est très rare qu'un greffier ne téléphone pas en disant le président envisage de fixer ça le 12 octobre.
Est-ce que vous êtes d'accord ?
On a même vu des présidents téléphoner directement aux avocats.
Oui, bien sûr.
Mais ils téléphonent sincèrement à l'heure actuelle à Versailles, une partie ils téléphonent, mais ils nous avisent.
Mais bien sûr.
Quand on leur dit j'ai un empêchement absolument incontournable d'une autre cour d'assises, un congé maternité pour certaines femmes, de choses comme ça, ça vous laisse le temps de vous faire succéder.
Non, non.
On est bien désolé, mais je veux dire que certains présidents...
Non, mais ça il faut pas se laisser faire. Si ça arrive, il faut pas se laisser faire. Attendez, là. Faut demander la
permission de l'ordre. Non, écoutez, il n'y a pas de raison que le comportement des greffiers change. Enfin, pourquoi.
Je pense que dans tout ce débat, ce qui manque ici, c'est des jurés. C'est des gens qui ont vécu l'expérience de juré, parce que ceux que j'ai rencontrés parmi mes amis, tout simplement, ou les clients, parle de cette expérience comme une expérience marquante,
bien sûr,
qui change leur vie, etc.
Bien
donc,
sûr.
Parler aujourd'hui du tribunal criminel sans juré, il faudrait donner la parole aux jurés.
Ah non,
ceux qui ne peuvent plus l'être.
C'est fini, ils sont jurés en cours d'appel.
Je veux dire qu'au moins, faire des témoignages sur ce qu'ils ont vécu, sur leur idée de la justice, à quoi ils ont participé, etc.
Mais ça, on peut...
Bien sûr.
Ça, c'est un travail de journaliste. Hein.
Oui.
Parce que la vérité, c'est qu'il y en a pas mal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les jurés étaient d'abord des témoins. C'est des gens qui prenaient contact avec ce qu'était la justice. Alors, en général, au départ, ils sont complètement perdus. Puis au fur et à mesure que l'affaire se déroule, ils sont vraiment intéressés. Ils sont intéressés simplement, non pas parce qu'ils ont un pouvoir forcément, mais parce qu'on leur raconte une histoire, qui est une histoire qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Bon. Et ça, c'est témoin du fonctionnement de la justice, c'est très important. Et je crois que là-dessus, les jurés sont en général des gens, ceux que j'ai entendus, ceux qui ont été entendus par des journalistes, là, ils ont un souvenir assez positif, vous avez raison. Pour eux, ça a été une découverte formidable, et cette idée de justice qu'ils n'avaient jamais eue leur est rentrée dans la tête.
C'est vrai qu'il faudrait que des journalistes, dans les mois qui viennent, s'intéressent à cette question. Ça ne va pas être simple. Et qu'ils aillent faire une enquête approfondie auprès des dizaines de milliers de personnes qui ont été jurées dans ce pays depuis 30-40 ans et leur demander ce qu'ils ont pensé de leur expérience et ce qu'ils pensent de la réforme qui va les sortir des cours d'assises.
Quand j'ai eu des jurés, j'ai défendu des jurés après le procès Villoquet. Il y avait Pelletier qui était poursuivi aussi.
Avec Giresse.
C'est pas Giresse, je crois que c'était Ullmann, mais c'était un peu la même chose. Il y a des jurés qui ont fait un témoignage pour dire.
On nous a manipulé.
Villoquet n'avait pas de confusion des peines.
Il
avait d'une part une peine, d'autre part il avait tiré sur un gendarme, etc. Et il y a tous les jurés, on signe une lettre disant le président nous a garanti que. La confusion était de droit, c'est ce que nous avons voulu.
Il leur a menti.
Et lorsque Pelletier a plaidé pour la confusion devant la cour d'appel, il a balancé cette lettre. Alors, il a été poursuivi, eux ils ont été aussi poursuivis, j'ai été l'avocat des jurés, Pelletier, je ne sais plus si c'était le maire, je crois qu'il défendait, et j'étais l'avocat des jurés, ça a fait un foin, et puis finalement, ils ont été amnistiés. Il y a eu une élection, je ne sais pas laquelle, et c'est passé dans la loi d'amnistie à l'époque, vous savez, c'était très bon. Ils n'ont pas été jugés. Mais récemment, il y a un juré qui a prévenu le Parisien, juré de Melun, je crois, qui a prévenu le Parisien sur un comportement de président en cour d'assises. Il y a eu un article, et le juré a été poursuivi. Et il a été condamné, finalement. Je sais parce que j'ai fait un commentaire de l'arrêt. C'était inéluctable, hein, mais c'est ce qui avait été intéressant. C'est quand on lisait ça, on voyait bien que ce type disait la vérité, quoi. Parce que ce comportement du président était inadmissible. Alors ça n'existera plus. Hein.
Exit les témoins.
Exit les témoins.
Exit les témoins. Bon, est-ce qu'il y a encore... S'il n'y a vraiment plus personne qui souhaite intervenir, moi, je pense qu'on va remercier chaleureusement Henri Leclerc de nous avoir fait l'amitié de venir. Et puis moi, je dispose des adresses électroniques de tous ceux qui étaient là ce soir. Donc, on vous communiquera la suite des informations de ce qui va se passer par la suite et notamment des actions qui pourront éventuellement être mises en place au niveau du barreau, au niveau du CNB, au niveau national. Peut-être les prises de contact avec les ordres des autres cours criminels concernés et essayer de voir un petit peu ensemble comment collectivement on peut faire en sorte d'essayer de garantir les droits des gens. Et puis moi, je vois plus loin. Voir si on ne va pas quand même faire un recours contre cet arrêté, j'y reviens, avant le 25 juin, et puis enfin, dans les 3 ans d'expérimentation, puisque la loi prévoit que notre profession fera partie de ceux qui auront leur mot à dire au terme des 3 ans pour savoir si on doit généraliser. Henri a raison, généralement les lois de cette nature sont toujours généralisées. Mais ne partons pas battus d'avance sur le fait qu'on puisse démontrer éventuellement, le cas échéant, qu'il ne faudrait pas généraliser cette loi. Et d'un autre côté, je terminerai là-dessus, si par contre il s'avère que nous nous sommes trompés, que finalement la cour criminelle fait que la justice se passe bien, que les gens sont bien jugés, qu'ils sont moins sévèrement jugés, qu'il y a moins de gens qui vont en prison, que les droits sont respectés, que les audiences...
On va voir ça.
Mais ça m'étonnerait.
On va voir ça au nombre d'appels.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais on peut penser aussi qu'une des vraies raisons profondes sur la question économique, c'est évidemment d'essayer de limiter le nombre d'appels et donc de limiter les dossiers qui iront devant la cour d'assises d'appel. Ça, on va le voir aussi très vite.
Alors là,
Et qu'est-ce qui se passera en cas d'appel ?
Mais attendez, ne jugeons pas sur les 6 premiers mois.
Oui, il faudra attendre plus.
Attendons les 2 ans.
La Cour criminelle l'a bien nommé.
Voilà.
Mon cher confrère parisien, il n'y a pas que des avocats dans les Yvelines.
Oui.
Il y a aussi deux noyaux de Poissy. Qui...
Oui.
Et il y a quelques confrères de Poissy qui peuvent témoigner de l'excellence du cadeau et en tout cas...
Oh, merci. Vous me prenez par les sentiments. Oh, c'est trop gentil.
De façon plus générale...
Attendez, vous avez un petit sac ?
Oui, affirmatif.
Voilà. Oh, ben, merci. Je vous remercie beaucoup de flatter mes vives instincts.
Il y a un pot plus moins alcoolisé qui est servi, qui est en train de se...
Il y a un pot pour tous ceux qui veulent boire un verre de l'amitié. Il est là. Hein.
Je dîne avec nous après. Ah ouais, bah alors attends. J'ai un chauffeur qui m'attend, moi je suis un peu fatigué.
Ah bon, t'es sûr ?
Ah ouais, non.
On veut juste boire un coup, on a prévu un resto, on a réservé pour t'inviter. Hein.
Oui, vous êtes gentil.
Juste à côté, place du marché, c'est à 100 mètres à pied.
Non, vous êtes gentil, mais je préfère rentrer.
Non, d'accord, ok.
Je préfère rentrer parce que je suis un peu fatigué.
Ok, pas de problème. Ouais.
Ça m'ennuie, hein. Tu me l'aurais dit avant peut-être que moi
le soir. Mais si, je te l'avais dit.
Ah bah, je vais pas faire.
Mais c'est pas grave, c'est pas grave.
Ah, tu sais.
C'est pas grave.
Mon frère, est-ce que je vous sers quelque chose à boire ?
Ah bah, ça, si vous buvez, là.
Il y a du vin rouge, du vin blanc. Ou des
un verre de vin rouge.
Un verre de vin rouge. Est-ce que vous accepteriez de me dédicacer un livre ?
Mais bien sûr. Avec plaisir. Alors, ça, c'est un
peu plus gentil. Pour moi.
Alors, comment vous vous appelez ?
Marie-Pierre.
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 Oui. Votre prénom ?
Oui.
C'est votre nom ?
Alors, c'est Méquignon. Là, c'est long, allez à la ligne. Parce que Méquignon, M-E. Q-U-I.
M-E.
Q-U-I.
On a été reçu à la commission des lois.
N-I-O-N.
N-I-N.
N-I-O. N-I-O.
Oui.
O.
N-I-O.
O. Et N. N.
N.
Voilà.
Ah. Méquignon.
Oui.
Ah non, j'ai le fait Méquignan, donc vous n'êtes pas arménienne.
Je suis.
C'est Méquignan, ça serait une arménienne. Oui, Méquignan, je ne sais pas d'où ça vient, c'est un nom plein
français. C'est du nord de la France.
Vous êtes avocat ici ?
Oui, au barreau de Versailles. Pas depuis longtemps, j'ai prêté serment au mois de janvier. J'ai eu une reconversion.
Voilà.
Je vous remercie beaucoup. C'est un grand honneur et un grand plaisir. Les confrères.
Merci.
Du vin rouge. Didier, qu'est-ce que tu veux boire ? Didier,
Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu non plus d'audition avec la profession d'avocat, des magistrats. D'ailleurs, je vais même vous dire un truc, le SM, vous avez du SM, moi j'ai cherché là pour que ce soit un texte du SM sur la cour de même, j'ai rien trouvé. C'est-à-dire que voilà, il y a le truc de l'USM.
Mais les magistrats,
mais je ne suis même pas sûr que l'USM, même si officiellement,
on ne peut pas
prendre. C'est compliqué pour eux. Ah oui, c'est compliqué.
Bon,
merci.
Alors, on ne veut pas vous
soir. Non, je suis pris au cas. Je vais dire à Pierre.
Didier, salut, ça va?